Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Voilà. Vous le connaissez ce générique ou vous le connaissez pas?
Oui.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, est-ce que vous êtes là?
Ouais.
Du premier coup, Jérémy.
On a pété le micro, donc on baisse le son petit à petit. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir à la Slow Gallery pour l'épisode de clôture de la saison 5 de Sens Créatif. On est très heureux d'être avec vous. Merci Lamia, merci Cyril, merci les artistes que vous avez découvert ce soir d'être avec nous ce soir. Que dire d'autre? On va papoter ensemble pendant une heure d'illustration. Voilà.
Mais pas que.
Vous êtes bien? Tout le monde va bien?
Oui.
Allez, merveilleux. Rock and roll. Alors, chers amis, donc ce soir, on est en compagnie donc de Gros Duc et Boucard, qui sont composés d'Océane et Margot. On a Yukiko Noritake qui expose ici ce soir et Pierre-Emmanuel Luyet qui ont tous les trois le point commun d'être représentés par la Slow Gallery. Et nous, on adore la Slow Gallery avec Laurent.
Ah bah oui,
ceci assez gros
cœur.
C'est assez particulier parce que c'est ici même, il y a quelques années, en 2019, qu'on a enregistré le tout premier épisode de Sens Créatif en public. Donc c'est un peu une sorte de retour à la maison, donc c'est un peu particulier. Voilà, alors sans plus tarder... on va commencer en demandant à nos chers amis de se présenter et de nous dire ce qui vous motive à sortir du lit le matin. C'est vraiment la question un peu historique qu'on pose toujours à nos invités.
Et rituel.
Voilà, ça fait 4-5 ans qu'on pose toujours la même question. Donc, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? Et surtout, vous êtes qui, quoi?
C'est nous qui commençons.
C'est vous qui commencez, allez.
Ben, nous, on est Gros Duc et Boucard. Pour de vrai, on s'appelle Margot et Océane. On est illustratrice et on fait pas mal de sérigraphie aussi. Ça va, je tiens bien le micro.
Ouais, c'est parfait.
T'es nickel.
Et on fait pas mal de médiums différents. Après, on fait de la peinture, de la gravure, un truc comme ça. Et ce qui nous motive à nous lever le matin, c'est dessiner des petits chiens mignons. Et c'est tout.
C'est déjà tout un programme.
Et le petit déjeuner.
L'internet est envahi de chats mignons et vous faites des chiens mignons.
Et vous faites des chats mignons aussi.
Des chats mignons aussi. Parfait. Et toi, Océane, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Ben, un peu pareil que Margot. Hein.
Ben ouais, ça
va. Bien résumé.
Vous répondez toujours la même chose toutes les deux en duo?
Non, quand même.
Super flemme.
Mais moi, je mange le matin, donc il y a aussi le côté petit déjeuner le matin. C'est sympa.
On aura l'occasion de plonger dans votre duo un petit peu plus loin. Yukiko.
Bonsoir. Je m'appelle Yukiko Noritake. Je suis illustratrice. Je fais la peinture. Actuellement, j'expose ici à Slow Gallery autour de vous.
Là, l'exposition
oui.
La Villa.
Oui, jusqu'à 16 janvier. Si vous voulez passer, je fais un peu de pub. Ce qui me motive le matin, le café, le petit déjeuner, tout simplement. Et peut-être le délai de projet qui me court derrière moi.
Bah oui, oui.
Ouais.
J'imagine bien, ouais.
De la réalité.
C'est speed, hein, d'être illustratrice quand même.
Oui, oui.
On n'imagine pas, hein.
Mmh. beaucoup de travail.
On fait des métiers stressants, bon sang. Pierre-Emmanuel.
Alors, je m'appelle Pierre-Emmanuel Liette et je suis illustrateur et je fais aussi des films d'animation en tant que réalisateur et animateur. Et ce qui me motive le matin, je pense que c'est de manière très pratique les enfants, parce que j'en ai deux et j'ai un petit bébé en ce moment à la maison. Donc,
de 3 mois.
Et on... Wow. Bienvenue au club.
Merci. Et ça c'est le côté pratique, mais sinon je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je suis très heureux de commencer mes journées en général avec l'idée que je vais bosser sur des projets cool et rencontrer des gens sympas.
Parfait. Alors on va vous demander de pas hésiter à porter votre voix, c'est une petite pièce, mais n'hésitez pas à porter votre voix. Et est-ce que tout le monde pourrait mettre son téléphone en mode avion, parce que j'entends ici des petites...
Ah oui, les grésillements, les fameux grésillements.
Petits grésillements, c'est tout le toute la technique du podcast, donc juste de se mettre en mode avion juste pendant... Si ça te dérange pas, surtout nous qui sommes près des micros, mais ça m'a déjà flingué des interviews, le grésillement. Voilà, je l'entends là dans mon casque là. Les
voilà, c'est bon.
Merci pour votre collaboration. C'est très très cool.
Mais de rien.
Alors, on attaque donc du coup avec on est tous ici illustrateurs, illustratrices. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à devenir les artistes que vous êtes aujourd'hui?
Et à faire des images.
Et à faire des images, parce qu'on aime les images.
Tu veux commencer? Mais nous, avec Océane, on s'est rencontrés à l'école Estienne, en DMA gravure. Du coup, c'est là où on a commencé à faire déjà des petits projets plus ou moins officiels à l'école.
Comment vous avez cliqué toutes les deux, en fait, à l'école?
À cause de la chemise provençale de Alexandre.
C'était un ami qui avait une chemise moche et
est moqué.
On veut l'histoire, là.
C'est bah ouais, c'est moche, là. Ça commence direct à balancer.
C'est moqué qu'on a chemise et ça a créé une alchimie.
C'est vrai.
Remarquable.
C'est ça. Elle était si moche que ça, la chemise.
Elle était un peu historique, je sais pas. Quelque chose qui nous a fait rire. On aime bien le médiéval, un peu, je sais pas, ça.
Ça nous a plu.
Ça nous a liés. Tout le monde est en train de se dire que nous sommes des personnes horribles.
Bah, après, c'est une belle histoire qui commence.
C'est une belle histoire.
On faisait des petites BD quand on s'ennuyait. En
voilà,
classe.
Puis après, on a fait des stages ensemble dans des ateliers de sérigraphie. Et puis après, voilà.
Vous êtes plus quittés.
L'Empire Grand-Duc Boucard s'est lancé.
C'est pas mal, ça, l'Empire. Ouais, carrément. C'est ambitieux.
Et vous êtes illustratrice depuis combien d'années, du coup, là?
10 ans, à peu près.
Wow.
Ouais.
Ça va?
Ouais. Bon, on a dû faire des petits jobs à droite à gauche, mais entre temps,
Vous êtes toujours là.
On est là.
Toujours là.
Parfait. Yukiko et Pierre-Emmanuel. Et aussi une conversation, donc on peut rebondir l'un sur l'autre. C'est pas genre plateau télé, chacun à son tour. C'est genre vraiment, c'est genre, non, moi aussi une chemise et tout, j'ai pas aimé, c'est aussi pour ça. Enfin voilà, on peut y aller, quoi. Hein.
Ok. Je sais pas, j'ai une longue histoire un peu. J'ai déjà vécu un peu presque ma vie au Japon, mais je suis arrivée en France en 2015. C'était pour entrer à l'école de Condé, dans le secteur illustration. Là, en fait, Pierre-Emmanuel travaillait à l'époque.
Ouais, c'est vrai, vous connaissez, en fait.
Ouais, j'avais son cours d'animation.
C'est trop bien.
Ce mars, c'est très bon signe.
Ça s'est bien passé, tu l'as pas terrorisé.
Apparemment,
ça va.
Apparemment, ça va.
Et puis, voilà, j'étais pas très douée en animation, je peux te dire. Et j'ai eu mon diplôme en 2018 et j'ai démarré ma carrière tout de suite après, en 2019. Voilà.
Et...
vas-y.
Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est au Japon, il y a vraiment une culture de l'image. Hein, et toi, justement, comment t'es tombée dans cette passion de l'image?
En fait, j'aimais toujours dessiner. Depuis que j'étais petite, c'était un peu ma passion, hobby que je fais chaque week-end et tout. Mais j'ai pas vraiment fait les études, les formations artistiques au Japon. Ce que je faisais, c'est la culture française. Et c'est comme ça que j'ai familiarisé en France. Et quand j'ai vraiment commencé l'étude de l'art, c'était à l'école de Condé. C'était en France. Et c'est là où j'ai vraiment appris la relation avec le travail d'illustrateur, le travail de, enfin, des artistes. Et oui, voilà. Je sais pas.
On aura l'occasion de.
Bah non, on creusera
plus loin. Ouais, pas de souci.
Je retiens.
Et tu travaillais beaucoup. Je me souviens.
Ah.
Beaucoup,
c'est
beaucoup,
trop
beaucoup.
Pas pour ton cours.
Bah si, quand même.
Non, mais c'est trop mignon.
Mais c'est vrai, Pierre-Emmanuel, c'est quoi ton...
Tu faisais l'effort, hein. Vraiment. Parce
c'est quoi ton regard, Pierre-Emmanuel, sur justement le Yukiko étudiante?
On va balancer des dossiers, là.
Ouais.
Ah non, bah non, mais il n'y a pas de dossier à balancer, parce que vraiment, c'était une super étudiante.
On savait même pas que vous étiez, que t'avais été son étudiante, ouais, c'est trop drôle.
Ça, on va pas lâcher l'affaire, là, maintenant.
c'était un an, hein. Deux ans.
Où ça, quand j'ai diplômé?
Ouais, en fait, il y a eu deux ans d'études où je t'ai suivi. Non, juste une.
Juste un an.
Juste un an. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, c'était de l'initiation à l'animation pour des élèves d'illustration. Donc, en gros, c'était horrible pour la plupart d'entre eux,
oui,
de faire ça, parce que c'était vraiment pas ce qu'ils voulaient faire ni apprendre. Et donc, moi, j'essayais de leur montrer qu'ils pouvaient animer leurs dessins et trouver des moyens simples pour le faire. C'était le but du cours. Et voilà. Et en fait, ça demande beaucoup de travail, l'anime. Du coup, il y en a beaucoup qui faisaient l'impasse parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Ils ont beaucoup de travail à l'école de Condé. Et mais moi, j'ai le souvenir que tu bossais quand même.
Non.
Bon, bah alors non.
Bah non, pas pour l'anime. Non, mais j'étais trop nulle.
Bon, ouais. Bah voilà, bah juste, j'en ai gardé un bon souvenir. Mais en
fait, parfait. Et toi, tu étais multicasquette, Pierre-Emmanuel.
Ouais.
Tu fais plein de choses. Comment t'en es un petit peu arrivé là à être monsieur couleur qui vole dans tous les sens là?
Moi, j'ai fait les Arts Déco de Paris et j'ai diplômé en 2009. En animation. Et après, j'ai fait de l'anime pendant 10 ans dans un studio. Et je faisais beaucoup, beaucoup de numérique parce que l'animation, ça se passe beaucoup sur ordinateur. Et j'ai des copains, Michael Prigent et Aurélie Paulet,
oui.
Qui m'ont un peu remis le pied à l'étrier quand ils m'ont demandé de faire le Parisianeur.
Ouais.
Et ils avaient ça. Et puis, il y avait un autre projet, c'était de la BD auto-éditée qui s'appelait Point. Qu'on a exposé ici d'ailleurs il y a longtemps et en fait ça m'a vraiment remis devant une feuille de papier parce qu'en fait le principe à l'époque c'était que tout le monde devait faire des originaux.
Ouais.
Donc c'était le à partir de là en fait ça s'est enchaîné, c'est-à-dire que ça m'a redonné le goût de dessiner, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et ce que je trouvais hyper cool c'était que c'est en fait faire des illus c'est quand même plus court que faire de l'anime. Du coup,
vous faites de l'anime vous aussi ou pas?
Bah on pas trop, on essaye un peu en ce moment de
image par image, enfin, ouais. Ou alors on fait des petits gifs.
Ouais, à l'ancienne quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais ça c'est bien.
Ouais, le gif art, c'est canon.
Et voilà, et en gros, c'était, disons que structurellement, pour un rythme de travail, c'est plus sympa de faire de l'anime et aussi de faire de l'illu.
Okay.
C'est-à-dire que c'est ce que je dirais, c'est sain en fait. C'est-à-dire que comme ça, on finit des projets plus vite et on peut avoir des projets au long cours en anime. Ça dérange moins.
Oui. L'élu, c'est moins un travail de moine quoi. C'est moins un travail au long cours.
Ça peut l'être. Hein.
On crache de l'image, du dessin et puis on passe à autre chose. C'est un peu comme ça que vous le vivez, genre tac 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 tac.
Ah, c'est quoi votre rythme?
Plutôt moine ou plutôt
Bah ça dépend. Nous on a fait quand même des études en imprimerie, donc c'est très long. La gravure c'est très très long comme processus. Après maintenant on bosse pour ça tout ce qui est commande sur tablette, donc ça va relativement vite.
Ça dépend
après,
si c'est quelque chose d'une commande avec la deadline qui arrive, ou si c'est quelque chose qu'on peut laisser traîner un peu plus.
Alors, toutes les deux, votre univers me fait trop rire. D'où elles sortent vos références, là? C'est quoi un peu les trucs qui vous font trop triper, en fait?
Je sais pas.
Il y a plein de choses.
Il y a plein de références, après.
C'est quoi un peu les ingrédients, gros, du Kebukar?
Ouais.
Bah, beaucoup de pop culture, quand même.
Ouais.
Des références plus classiques.
Des animés, ouais. Tout ce qui est un peu médiéval aussi, ça ressort pas mal, en général. Et le surréalisme, un peu. Enfin, plein de trucs très...
Moi, je m'interroge sur comment vous bossez en fait.
C'est exactement ce que je voulais te demander.
J'en étais sûr que ça allait arriver.
Mais oui, attendez, ça fait 10 ans que vous bossez ensemble.
Bah, vous avez le discours du coup. Alors.
Voilà, je le sais en fait. C'est toujours mystérieux.
Mystère, mystère.
Est-ce qu'il y en a une qui fait les couleurs et l'autre le trait
Non,
ou pas du tout.
Non, en fait, on fusionne. Non, en fait, ça dépend vraiment des projets.
Qui est Grosduc, qui est Boucard?
Moi, je suis Grosduc.
Moi, je suis Boucard.
D'accord. Ok. Pardon, continue.
Parce que ce soit dit. Ouais, en fait, ça dépend. Parfois, si c'est une commande et il faut faire 6 illustrations, par exemple, bah, on fait 3 chacune. Puis parfois, s'il y en a une qui est pas inspirée, on l'envoie à l'autre.
Mais c'est difficile de faire la différence. Hein. Vous dessinez de la même manière, toutes les deux.
On arrive un peu à s'adapter.
On prend un peu des thématiques communes. Après, on essaye d'uniformiser les dessins. Si c'est pour une commande, on va choisir le même trait, la même palette. Des choses comme ça.
Puis c'est 10 ans de laboratoire là. Donc ce que vous faisiez forcément au début était plus balbutiant. Est-ce que vous faites maintenant et carré parce que vous avez une sorte de...
On a commencé avec la sérigraphie. Il y avait ce truc de travailler sur une image à deux dès le début en fait en faisant les calques. Ouais.
Ça uniformise pas mal.
Du coup, l'idée d'imprimer à deux c'est beaucoup plus simple. Et après du coup ça se voyait dans le dessin ça se voyait pas dans l'image finale, mais on avait fait tout le processus à deux, et on continue un peu avec ça. Des fois, on se passe les fichiers, ou des fois, pour une question pratique, on va travailler tous les deux sur des fichiers différents, mais on se parle tout le temps, on se montre tout le temps un peu ce qu'on fait.
Ouais. J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Est-ce que vous faites marrer l'une et l'autre?
Ah oui.
Et est-ce que vous engueulez l'une et l'autre?
Je dis oui, elle dit non.
C'est beau quand même.
Bah ouais. Bah oui, c'est beaucoup de private joke aussi dans notre travail. Il y a beaucoup de choses qui nous font rire.
Même après 10 ans.
Ouais. Même après 10 ans.
Après 10 ans, la flamme reste intacte.
Et quand vous n'êtes pas d'accord, ça se passe comment?
Quand vous n'êtes pas d'accord.
Vous mettez sur la gueule un petit peu parfois?
Non, franchement, on s'est jamais engueulé, je pense.
Non,
on se dit si jamais on aime moins, si jamais on lit des choses comme ça, vous pouvez nous dire. Non, mais on est assez tolérante.
Mais en général, si c'est pas ce que j'imaginais, souvent je pense que c'est mieux que ce que j'imaginais.
Ouais, on est assez flex.
Je dis Ou
s'il y a des trucs qu'on veut changer, on dit ah peut-être c'est mieux avec cette couleur ou ce truc. Oui, mais c'est jamais des gros débats.
Parce qu'en fait, il y a un truc qu'on connaît aussi avec Jérémy, c'est la notion du compromis. Et des fois, le compromis, il est tout mou, quoi.
Mais on fait pas le con, promis.
Je te promets.
J'espère que notre travail, il est pas tout.
Et justement, en fait, voilà, c'est ça. Mais justement, votre taf, il est pas mou. Donc, du coup, comment passer au-delà du compromis pour que justement, en fait, la proposition, elle soit à fond, quoi.
Je vois plus comme de la collaboration des travails comme une agence de graphisme, il va travailler un sujet.
On a une DA du coup pour un projet. On fait des recherches parfois de notre côté, parfois ensemble. Souvent on tombe d'accord en fait. Donc,
vous n'êtes pas en duo, mais c'est quoi un peu les compromis que vous êtes amené à faire? On sait très bien
qu'on avec vous-même.
On n'aime pas faire les compromis, c'est chiant, mais on n'a parfois pas le choix.
Pour les commandes.
Ouais, les clients, commandes ou t'es ta production perso.
Le compromis vient de là. Non,
moi, je suis pas très difficile pour. Enfin, si le client prend une direction comme ça et qu'il préfère faire comme ça, je suis plutôt parce que il me paye donc.
C'est vrai. Le client est à moi.
Non, mais c'est une posture.
Après, j'essaie de faire sortir quelque chose que j'aime aussi, évidemment.
Oui.
Mais je suis pas très difficile. Je bloque pas trop.
C'est une belle chose, je trouve, d'être flexible parce que parfois dans nos métiers, on peut être un petit peu précieux,
crispé sur notre travail,
le mauve, mais c'est toi qui paye, elle est d'accord.
Oui. Et peut-être que j'ai pas encore le cas extrême comme ça.
T'as pas encore eu de client chiant en fait.
Je sais pas.
T'as eu cette chance, c'est cool. Et toi, Pierre, des compromis?
Des compromis, mais plus. Je pense qu'au début de ma carrière, parce que ça fait quand même 15 ans du coup, un petit peu plus, je pense que j'étais hyper chiant.
C'est vrai.
Ouais, je pense que j'étais intraitable, je faisais pas de compromis et je pense que c'était pas une très bonne chose d'ailleurs parce que c'est un truc qui s'apprend en fait et c'est un truc que j'ai appris au contact d'autres gens. Où j'ai vu qu'ils étaient hyper détendus et que en fait il fallait juste laisser aller quoi.
Je te comprends tellement.
Comme Yukiko quoi.
C'est ça.
Et en général, ça se passe beaucoup mieux quand on oublie un peu les trucs
d'accord.
sur lesquels. Après, ce qui est marrant avec cette histoire de compromis avec des clients, c'est que moi j'ai remarqué que en général les plus exigeants
c'est ceux qui ont le moins d'argent.
Oui.
Ah oui.
Mais c'est un truc de fou, quoi.
Il y a plein de gens qui acquiescent, c'est là.
Est-ce que tout le monde acquiesce?
C'est-à-dire que c'est open doors, ils demandent tout ce qu'ils veulent et en fait, du coup.
Pour 300 euros.
Voilà. Et ça, c'est terrible.
On les aime pas, hein. On peut le dire, on les aime pas.
Bah, s'il y en a qu'on aime bien, mais bon, bah, voilà, après, ça met dans des situations qui sont un peu compliquées. Et puis, avec le temps, on en a de moins en moins parce qu'en principe, on grandit un petit peu professionnellement.
Ça veut dire quoi? Qu'on peut faire des meilleurs choix, c'est ça?
Aussi.
Ouais. Vous avez vu ça un petit peu entre vos débuts et maintenant, le fait de pouvoir mieux choisir vos clients et d'être un petit peu plus libre?
Moi, je pensais que c'était plutôt l'inverse. Au début, on se laissait un peu plus marcher dessus par les clients. On s'affirme un peu plus, j'ai l'impression, pour oser un peu défendre la direction qu'on a prise.
Ah oui, oui, oui. Je sais ce que tu veux dire.
Mais je sais plus ce que c'était l'autre question.
Non, mais c'était le fait d'être de plus en plus détente, c'est flexible, mais en effet, je pense qu'avec le temps aussi, on gagne en street cred,
en maturité,
donc
on se rend confiance en soi aussi dans ce qu'on fait.
Et là, c'est genre non.
Et c'est ça. Non. On essaye de faire avec diplomatie. Mais...
c'est l'histoire du oui ou du non en fait quand on reçoit une commande. Est-ce que vous êtes du genre à accepter toutes les commandes parce que c'est dans votre nature de tout accepter, de dire après merde quand j'ai pris la commande, ou est-ce que vous êtes capable comme ça au téléphone de dire non, bah ça nous intéresse pas pour cette fois, merci d'avoir appelé.
Ça dépend des budgets en fait. Surtout.
Ah le budget. Ok, d'accord.
1000 euros. D'accord.
Ça va être très terre à terre.
Excellente raison. C'est super terre à terre.
Bah non, mais si les budgets sont complètement bas comparés à ce qu'on nous demande de faire, on. Avant, c'est des choses qu'on prenait, et maintenant, on le fait.
Eh oui, voilà, en fait. Donc, il y a cette évolution-là.
C'était quoi la pire commande, le pire projet?
La gratuité, souvent.
Tu l'auras pour la visibilité.
C'est une question qu'on se posait au début de l'illustration entre illustrateurs. C'est, vous faites plus de trucs gratuits, vous? Il y a une étape où tu dis, choses gratuites. C'est un truc que chaque illustrateur définit.
On a tous commencé un peu par du gratuit.
Ah ouais.
Non, pas Yukiko.
Échange avec des produits. Alors j'ai envoyé la facture 3 fois et ils m'ont pas payé.
Oh. Ah ouais,
faut envoyer l'agent là du coup.
Non, mais c'est avant que je serais représentée par mon agent.
Ah d'accord.
Je viens de sortir mon école, je devais démarrer toute seule et au début il faut faire la confiance quoi aux clients, les gens qui me donnent des commandes et puis parfois je suis arnaquée un peu.
C'est dur hein, quand même ça.
Ouais. T'as dû avoir de la visibilité.
Ouais.
Ça on l'entend moins quand même. Non.
Ça évolue.
Cet argument.
C'est un peu une vieille blague quand même dans le milieu.
Je pense que ça a été tellement détourné maintenant.
Ouais.
Moi c'est l'éducation nationale qui me doit des sous.
Ah oui,
s'ils m'entendent.
On leur enverra le podcast. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai fait des cours et j'ai jamais été payé.
Attends, t'as fait des cours mais avec un truc en ligne?
Avec un lycée.
C'est dit ça.
Avec un lycée de graphisme.
Avec un lycée, ah oui. Non, pas une plateforme en ligne demande des cours. Et
non,
tout.
Non. Un vrai lycée. Il existe.
C'est sympa. Lycée public?
Ouais.
Ah, putain. Merde.
Voilà.
Ok. Mais c'est comme tu disais, Pierre-Emmanuel, c'est que la visibilité, maintenant, en fait, on peut se la faire soi-même, grâce à tous les outils sur Internet et compagnie. Est-ce que comment vous investissez justement ce côté réseaux sociaux? Comment vous jouez avec?
Bon,
un peu comme tous les illustrateurs, on passe notre travail dessus.
On n'a pas trop une technique.
Vous êtes pas
on n'est pas dans le
comité
management incroyable, mais non, ouais.
Comment
c'est un peu minimum.
Comment vous êtes fait connaître? Il y a le talent, évidemment. Vous êtes follement tous talentueux. Mais hormis ça, comment? Bon, non, c'est juste le talent. C'est vrai que le talent, c'est déjà beaucoup.
Elles t'ont dit, elles ont bâti un empire.
C'est l'empire grand du Québec.
On n'a pas de stratégie, mais on a un empire.
C'est pas bâti en un jour.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être même qui débutent, qui se demandent comment tirer son épingle du jeu dans, parce que l'illustration, c'est même un petit peu c'est un game, quoi. Comment on fait?
Je sais même pas si c'est le cas, en
fait. C'est vrai?
Je sais même pas si on est connu, en fait.
Ouais, c'est ça. Attends.
Si, c'est intéressant, quand même, le rapport que t'as à ton.
On peut dire ça, tu vois, je sais pas.
À ton rayonnement.
Est-ce que c'est une niche, en fait? Ou est-ce que c'est un milieu?
Je pense que c'est une niche, quand même.
Ouais.
Illustration.
T'as l'air triste quand tu dis.
Non, c'est une niche.
C'est juste une. C'est,
ouais. Non, mais on est bien, mais c'est juste par rapport à, je sais pas, le publicité photographe, je sais pas, de l'art plus grands artistes, l'art contemporain ou des trucs comme ça. Enfin,
c'est pas... Tu fais quand même des livres pour la jeunesse et là tu touches un public directement, quand même.
Toi aussi.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un vrai rapport à un public qui n'est pas forcément initié.
C'est un travail d'auteur, d'autrice, quoi. Là, c'est quand la commande laisse place à un vrai travail personnel, quoi.
Ouais. Alors, c'est dans ce cas-là, oui. Mais là, pour le coup, ça devient plus un travail de galerie. Là, comme oui.
Tu peux un petit peu nous raconter, Yukiko?
De mon exposition.
Ouais.
Mon exposition, ça s'appelle La Villa. En fait, je me suis inspirée par la villa italienne. Je suis partie à Lac de Combe cet été et j'ai visité pas mal de villas pour regarder un peu les décos intérieurs ou les espaces de l'époque. Et déjà, au quotidien, je m'intéresse beaucoup pour les décos ou des objets d'art ou la mode. Enfin, du coup, j'ai tout fusionné dans ma tête et exprimé. Très rapidement.
Ah oui, très rapidement, parce que c'est là.
Pour rester combien, c'est une expression de travail, ça?
Deux, trois mois.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, je voulais commencer un petit peu plus avant, mais il y avait un gros projet qui est tombé dessus et que j'ai pas pu organiser comme je voulais. Donc, à la fin, je voulais dessiner un petit peu plus au début, mais oui, à la fin, c'était un peu en arrache. C'est pas comme toi.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Parce que la Slow Gallery m'a dit que Pierre Emmanuel, il a travaillé depuis un an pour exposer toutes les grands formats.
C'est la Mia qui a dit ça.
Et c'est toujours pas là, on ne voit pas encore, c'est ça?
De quoi? Ah non, mais si, c'était
c'est l'expo passée.
Ouais.
D'accord.
T'as loupé ça, Jérémy?
Oui, c'est vrai. Mais je suis venu à une de tes. Il y a longtemps, mais.
Oui, il y a longtemps. Oui, là, il y a longtemps. Non, c'était en mai dernier. Mais après, oui, j'ai travaillé, mais en dilettante, hein, pendant un an. Donc c'est-à-dire que
entre les d'autres projets.
Voilà, c'est ça. C'est un espèce de truc de fond qui est toujours là. Tu fais un dessin et puis après tu bosses sur un autre truc pendant un mois. Tu reprends.
C'est difficile pour toi. Non, mais c'est-à-dire que enfin de échanger dans ton cerveau, enfin dans ton comportement.
Ah non, pas du tout.
De
faire le switch entre différents projets.
Les projets,
non.
Projets.
Pour le coup, c'est un truc. Moi, j'adore ça. J'ai toujours genre 10 projets en même temps. Et je passe de l'un à l'autre. C'est comme ça que je travaille. C'est comme ça qu'en fait, tu respires aussi parce que tu fais quelque chose, t'as le nez dedans. Et en fait, à un moment, tu t'extirpes de ça, même un jour. Et tu as un regard neuf quand tu remets le nez dedans. Et c'est quand même génial. Parce qu'en fait, du coup, tu te dis, ah mais en fait, ce que je suis en train de faire, ça va pas du tout.
Ah.
Alors, ouais, enfin, tu vois, il y a, je trouve que ça donne du recul.
Tu passes plusieurs temps pour dessiner, pour finaliser une image, en fait.
Ouais.
Ouh.
Bah, ouais, ouais. mais tu fais pas ça, toi?
Bah, ça dépend. Par exemple, les petits formats A4 et tout, je fais très rapidement.
D'accord.
Vous avez aussi une pratique personnelle, j'imagine, les gros du Booker. C'est quoi un peu les trucs qui vous font triper, dans votre pratique personnelle?
Tout ce qui est hors commande.
On fait pas mal de peinture aussi.
Ouais, peinture. Moi, je fais un peu de tatou.
C'est vrai?
Ouais.
Ah, j'avais pas vu.
Mais en... Vu comme ça, pour les coups de poing.
Ils sont contents?
Ouais. J'espère.
Oui, la céramique aussi.
Ouais, céramique.
C'est important d'avoir cette... Moi, je trouve que c'est important.
Bah, c'est bien.
C'est comme une évidence, en fait, mais d'avoir un espace juste à soi.
Oui, c'est bien. Et c'est bien d'avoir des choses qui sont pas dictées par de la commande non plus pour savoir, des fois, qu'est-ce que t'as envie de faire toi, personnellement, en dehors des contraintes de commande, choses comme ça.
Et justement, vu que vous êtes un duo, mais vous êtes deux entités individuelles, et vous avez vos pratiques personnelles qui ne rentrent pas dans le gros du Kebukar ou
tout est du gros du Kebukar?
Ça finit par se rejoindre un peu.
Ouais, ça se rejoint vite, quoi.
Enfin, parfois, si je fais des peintures chez moi, ça peut nous donner une idée d'exposition, par exemple. Enfin, c'est un peu presque de la recherche, sans que ça en soit à la base, mais genre, c'est...
Ouais, d'accord.
Ça finit toujours par être un peu...
Oui, c'est ça. c'est peut-être pas des fois des choses qu'on mettrait dans notre, par exemple, sur Insta ou des choses comme ça, mais c'est souvent des choses qui se...
C'est votre petit jardin secret?
Ouais, c'est ça. C'est des choses un peu plus intimes, peut-être. Ou... Oui.
C'est, vous avez un petit jardin secret artistique?
Personnellement, je sais pas.
Non. Non, je donne tout en pâture sur les réseaux.
Non, pas tout, mais j'aime bien me servir de d'Insta comme un espèce de labo en fait, un truc où qui me permet de publier quelque chose sans aucune contrainte éditoriale.
Ouais, ouais.
Et ça, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est peut-être le dernier truc un peu libre qui nous reste en tant qu'artiste, c'est qu'à un moment, tu peux faire un dessin et tu peux l'offrir à un public. Genre sans que personne t'ait dit non mais il faudrait mieux que ce soit un peu comme ça, ah mais non mais t'es sûr de vouloir mettre du texte et tout, ben en fait tu t'en fous, tu le fais, tu le publies et puis voilà quoi, c'est un acte gratuit en fait. Mmh. Et ça c'est, moi c'est un truc que je trouve hyper motivant, c'est hyper stimulant en fait. Oui. Après,
c'est un truc dont on parle souvent, que Jérémy justement sur Sens Créatif, c'est cette idée de donner mais de façon généreuse et sans forcément attendre quelque chose en retour. Mais en fait, ce geste-là, il est purement créatif, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a une puissance en fait derrière cette possibilité-là. Et comme tu dis, c'est presque finalement un des rares outils qu'on a à notre disposition pour le faire et toucher du monde comme ça un petit peu dans le cosmos, ouais. Quoi.
C'est assez. Mais c'est assez gratifiant parce qu'en fait tu as un retour direct. Alors c'est une communauté qui te suit, donc a priori ils aiment bien ce que tu fais, sinon ça serait un peu étrange.
Ça peut tomber aussi sur des yeux qui te connaissent pas, qui te découvrent aussi par la magie de...
Ouais, mais alors aujourd'hui, enfin alors je sais pas comment fonctionne leur algorithme.
On ne faut pas comprendre,
c'est compliqué. Mais pour que des gens qui te connaissent ni d'Ève ni d'Adam arrivent à voir ton travail et à le découvrir, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué quand même. Enfin, je sais pas pourquoi, mais
Oui, mais ça peut être aussi. Alors, moi, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est pas que là-dedans, quoi. C'est pas que sur la toile. Ah, mais oui, mais je suis violent. Mais c'est aussi, bah oui, parce qu'en fait, c'est ce qui sort de là. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a pu voir ton travail, et je trouve ça génial parce qu'il va peut-être en parler de vive voix à un ami, à des amis, et du coup, eux, ils vont aller sur leur téléphone. Ah oui, je connaissais pas, c'est super.
Ouais, ouais, c'est vrai que ça fonctionne comme ça.
Ouais,
aussi,
c'est pas qu'en vase clos, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, j'ai une question très spécifique pour Pierre-Emmanuel, mais est-ce que, je pense avoir une idée, mais est-ce que vous avez des enfants?
Non.
Non. Non, non, ok.
Est-ce que vous aimez les enfants?
Non.
Pas les enfants, ils peuvent tous brûler. Non, mais Pierre, moi, un truc qui me fascine un peu dans son boulot, c'est que j'ai jamais vraiment réussi à atteindre, je pense, dans mon travail graphique, c'est de lâcher prise, en fait. Et Pierre-Emmanuel, dans son travail, les couleurs vont dans tout. Et je trouve que plus le temps avance, au plus... Ça va dans tous les sens.
Plus ça part dans tous les sens.
Voilà. Et c'est alors, le lien, il est un peu facile, mais est-ce que la parentalité, ça fait genre, oh, vas-y, je m'en fous, j'y vais de, ou est-ce que ça a rien à voir? Est-ce que tu peux juste parler de se lâcher prise, de la parentalité, ce que tu veux, mais est-ce que tu peux adresser le sujet, quoi?
Oui, oui, alors je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants ici, à part Jérémy.
Et Laurent.
À part nous deux.
Il y en a d'autres. Voilà. Ah, qui a des enfants?
Oui, levez la main.
Voilà.
Ah, oui, quand même.
Ah, t'as vu?
Ah ouais.
Quand même.
Ouais.
Il y a un public pour. Bon.
Bravo les parents.
En fait, pour moi, avoir des enfants, ça a été un accélérateur en termes créatifs, alors que je pensais que ça serait tout le contraire.
C'est un truc de fou, hein.
C'est-à-dire que je pensais que, en fait, ça allait freiner la créativité et tout ça, et en fait, ça m'a permis d'être plus concis, plus rapide, et d'aller droit au but, et arrêter de me faire chier avec des projets qui, vraiment, n'en valaient pas la peine, en gros. Et c'est incroyable parce que du coup le filtre il a été automatique et j'ai fait automatiquement ce que j'aimais et je suis allé vers ça, et là avec le deuxième c'est pareil.
D'accord.
Donc c'est une question d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut être très organisé. Je pense qu'avec la personne avec qui on partage cette expérience incroyable qui est d'avoir un enfant, il faut avoir un dialogue assez ouvert sur la manière dont on se répartit les tâches et comment on s'organise. Mais si ce dialogue il existe et que ça se passe bien, bah en fait ça peut être vraiment très chouette.
Mais tu dirais que ça va vraiment de parallèle avec ton travail, parce qu'au plus le temps passe, au plus je regarde ton boulot, au plus j'ai l'impression que ça... Enfin, le son était bizarre, pardon, mais.
Le son était un peu.
Voilà, on fera du sound design au montage.
Pardon.
Sorry. Mais je vois ce que tu veux dire.
Voilà.
Je vois ce que tu veux dire. Après, ouais, je sais pas en fait. Je pense que c'est un. Il y a un espèce de d'effet. Il y a un moment. Enfin, moi, je vais avoir 40 ans.
Ah ouais.
Je le dis tout bas parce que. Mais en gros, je pense que aussi que je suis à un moment de ma carrière où. Voilà, c'est un peu en marche, quoi.
Mmh, oui. T'as moins besoin de prouver des trucs.
Bah, et puis, enfin, voilà, j'ai pas autant d'opportunités que quand j'avais 30 ans.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est un espèce de tout, quoi. Il y a tout qui se bouleverse, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et c'est très, tout est très stimulant. C'est une période extrêmement stimulante. Et, du coup, bah, soit tu résistes, soit tu surfes là-dessus, quoi.
C'est quoi les trucs qui vous stimulent? Si c'est pas les enfants, c'est quoi les trucs qui vous... Oh, je veux y aller, là, je veux faire ces trucs, je veux faire des images.
Et est-ce que la musique, qui est importante aussi dans votre travail, vous stimule beaucoup?
Le punk rock.
Moi, oui. Bah ouais, moi j'aime bien faire des choses en lien avec la musique parce que c'est assez inspirant, ça se croise bien, quoi.
Ça génère pas mal d'univers, c'est vrai. C'est vrai que c'est cool de bosser pour la musique et enfin, avoir plusieurs...
C'est quoi ce qui vient vous nourrir Enfin, Yukiko ou Océane et Margot,
c'est
hein.
Plutôt dans l'image, ouais. Les inspirations, je dirais.
Bah, des lieux, des ambiances. Ouais.
J'ai vu, vous avez participé à un festival, là, cet été, ça avait l'air très marrant. Vous avez fait des dessins, du Night to Ruin. Enfin, comment s'appelait ça,
des
ce festival?
On fait des bad fan art en festival, souvent, c'est des portraits mal dessinés des gens.
J'adore. Des portraits moches de gens.
C'est excellent comme concept, ouais. Vas-y. Vas-y, raconte ça.
Ils le prennent pas mal, les gens, ça va?
Bah, c'est le principe, donc ils sont signés pour.
Précise qu'ils sont mauvais.
Ouais, ouais,
ils sont
ouais.
consentants.
Ouais, ils sont consentants. On a une page, si vous voulez, ouais. C'est Bad Fan Art by JB sur Insta. Allez, follow.
Il y a plein de gens mal dessinés dessus.
C'est oui. ça, et consentants, normalement. Mais c'était, on voulait... Je sais pas pourquoi, à un moment, on s'est dit on voulait faire des dessins comme les dessins qu'on fait dans nos agendas quand on a 12 ans.
Ah ouais, les petits doodles, quoi, ce qu'on appelle doodles.
Et de l'estompe aux doigts et des trucs comme ça. Et on s'était entraînés longuement, vraiment, pour le faire. Et parfois, ils sont pas assez mauvais, on les recommence. Ouais, vraiment,
c'est dur de mal faire.
C'est une longue haleine. Parfois, ils sont trop symétriques, tu peux pas t'en empêcher, parfois, ouais. T'as des réflexes.
Vous lassez jamais de l'illustration? Vous lassez jamais de l'illustration? Est-ce que c'est un plaisir sans cesse renouvelé? Ou est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu genre...
Je fais le break.
Je sais pas.
Pour l'instant, ça va.
Non, ça va.
Si on continue.
Ouais.
Moi, j'aime bien changer de technique, de support, un peu. Enfin, comme faire de la gravure, ou faire de la sérigraphie, du tatou, de l'ilu, de la céramique. Enfin, c'est plus les supports qui vont varier.
Nous, on change souvent un peu de style, presque, entre guillemets. Mais du coup, parce qu'on aime pas faire souvent... les mêmes images. C'est vrai que parfois les clients ils disent on veut ça en fait, et bon, on essaie de faire un petit peu différemment qu'un truc qu'on a déjà fait. Mais...
Oui, bien sûr, ouais.
C'est là où est la lassitude, je pense.
Ah oui, parce forcément, ouais. Parce qu'on nous appelle pour ce qu'on montre, pour ce qu'on sait faire, pour ce qui est visible, et donc forcément, bah, ça réenclenche des commandes qui sont souvent identiques. On aime bien ce que vous faites, refaites le truc que vous avez fait. Et forcément, c'est pas toujours ce qu'on a envie ou besoin sur le moment, quoi.
Laurent m'avait dit quand j'ai commencé ma carrière en 2013, amuse-toi maintenant parce que j'ai plusieurs styles, parce qu'au bout d'un certain temps, on t'appellera toujours pour la même chose. Et ça peut parfois être un petit peu...
Ouais, c'est un challenge de se renouveler,
c'est une
de se recréer.
Question, style dans le milieu, genre on nous appelle pour notre style, du coup on est content parce qu'on est identifié, mais de l'autre côté, on se sent un petit peu enfermé. Bon, toi, t'as plusieurs casquettes, donc tu fais de l'animation, tu fais de l'illustration, tu fais...
Ouais, après, je pense que le truc qui est le fil rouge, c'est la couleur.
Ouais, c'est vrai, ouais.
C'est
ouais.
qu'on m'appelle toujours, en général, pour mon travail de couleur. Après, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, c'est vraiment une discussion que j'ai ouverte avec les DA. Est-ce que on fait le truc au crayon de couleur manuel? Est-ce qu'on choisit une technique numérique? C'est un débat qui est ouvert. Il y en a qui ont des idées très préconçues qui me disent non mais en fait moi je viens pour ça. Et puis il y en a d'autres qui disent bah en fait non, fais ce que tu veux. Et du coup j'ai l'impression que ça se détend un petit peu en fait, parce qu'avant effectivement c'était hyper il fallait que ce soit comme ça et pas autrement, mais attends, là tu nous fais un truc, ça n'a rien à voir, comment on va faire pour le mettre sur notre site, tu vois, c'était des discours d'agents, Et là, bah, en fait, mais et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus flex. C'est, mais je pense que c'est lié aussi à la technologie, à la manière dont on peut toucher à plusieurs styles, parce qu'on touche plusieurs techniques en fait. Ouais, par exemple, aujourd'hui, si t'as un iPad avec Procreate, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. Mais pourtant, il y a un moment, ça va toujours être toi. C'est toi qui crée l'image. Et je pense que c'est ça qui est vraiment hyper important. Mmh. Si on arrive à te reconnaître quand même à travers ça. C'est un peu compliqué hein, pour y arriver.
Ouais, bien sûr, c'est la quête d'une vie en tant que créateur.
Voilà.
Hein.
Mais quand on y arrive, c'est cool.
Et Yukiko, tu as travaillé récemment pour Pierre Hermé?
Oui.
Ouais.
Oui.
Alors, il faut savoir que Pierre Hermé, c'est une star au Japon. Et du coup, le fait que tu travailles pour Pierre Hermé en France, est-ce que quelque part, t'as l'impression d'avoir connecté des câbles entre eux en fait, quelque
avec
chose d'un petit peu, ouais, quelque chose d'un peu méta comme ça, ou est-ce que c'est moi qui me fais un trip?
Pas forcément, en fait. Non, pas forcément avec le Japon. Non. Non, en fait, j'ai entendu qu'ils ont l'équipe marketing à part. Au Japon, Pierre Hermé, parce que je pense que celui que les Japonais aiment, c'est pas forcément quelque chose que les Français aiment au niveau de direction artistique, je pense. Mmh. Du coup, non, mais moi, j'ai travaillé vraiment avec le marché français. C'est ça, c'est bon comme.
C'est ta réponse, mais moi, ce qui je trouvais fascinant en fait dans cette commande là, ouais. C'est que j'ai l'impression que le monde il s'était connecté, tu vois, et que du coup bah t'étais là, t'étais la créatrice qui réalisait cette espèce de
surtout de pour moi c'était un peu le nouveau challenge avec Pierre Hermé, c'est que d'habitude, je dessine beaucoup de paysages avec des personnages et tout, mais c'était vraiment les motifs florals, ouais, presque là, mélange de abstrait, taches de pinceau, et la partie qui sont dessinées très délicatement, précisément, avec des traits.
C'était spécifiquement pour les vitrines?
Non, le coffret de macarons aussi. Okay. Ouais.
Mais c'était comment de recevoir un mail disant est-ce que vous accepteriez de travailler pour Pierre Hermé? Quand t'as reçu j'imagine un email pour te dire on va bosser ensemble.
Ouais.
Bah, c'était comment?
Parce que c'était mon agent.
Ah,
venait de mon agent.
Mais toi quand même t'as réagi comment?
Ah bah j'ai dit tout de suite avec plaisir. Enfin c'est cool.
Ça t'a pas intimidé?
Non, pas trop. En fait, vu que j'ai pas le contact direct avec les clients à chaque fois. Moi, j'exprime ce que je sens en direct avec mes agents et toutes les contraintes un peu compliquées, le budget, négociation, enfin toutes les parties comme ça, je laisse gérer à mon agent.
Tu as bien raison.
Et je suis très contente de manière de bosser comme ça.
Oui.
Voilà.
On ne pouvait ne pas parler de Pierre Hermé parce que bon, quand même, c'est pas tous les jours qu'on peut interviewer quelqu'un qui a bossé pour
Pierre. Oui, j'étais contente de voir. Ouais, toutes mes fleurs qui sont sur le vitrine, c'était cool.
Ben oui. Ouais. Alors il y a quatre questions que j'aimerais vous poser à vous. C'est aujourd'hui, après autant d'années en tant qu'illustratrice, en tant qu'illustrateur, quels conseils vous auriez aimé connaître à vos débuts, que vous dites punaise, si j'avais su ça, j'aurais gagné quand même 10 ans.
Bah, savoir faire des contrats, des factures et tout, de manière un peu plus. Ouais, un peu plus.
C'est vrai. C'est pas très poétique, mais.
Les sessions de droit, tout ça, c'est des choses qu'on faisait pas du tout. Et en fait, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent.
Ah oui, bah oui.
L'Empire serait encore plus grand.
L'Empire serait florissant.
Mais est-ce que maintenant, en fait, tout ça, c'est un problème qui est réglé ou quoi? C'est encore un problème en.
On a un agent maintenant.
Ah oui, ok, d'accord.
C'est Cyril qui s'en occupe.
Merci Cyril.
On n'a plus besoin d'apprendre.
Merci.
Mais ouais, donc avoir un agent, soit apprendre comment ça marche l'administration, quoi.
Ouais.
C'est pas très sexy, hein,
quand
même.
C'est pas sexy.
Ouais, c'est sexy, mais.
On voulait faire rêver les gens, et puis. Ouais. Non, mais il y a peut-être d'autres trucs, hein, Margot.
Apprenez.
Je vais réfléchir. Ouais, c'est mon côté pratique.
Cela dit, Cyril, il paye pas vos cotisations à l'URSSAF. Vous êtes quand même.
Oui, mais ça va.
Voilà. Ça se va.
C'était plus par rapport à des clients, on a très mal négocié certaines choses. Et ouais, okay. Mais c'est ce qu'on fait au début parce qu'on n'anticipe pas ce que le projet peut devenir.
T'as un souvenir comme
ton
ça?
Temps de travail, des choses comme ça. Bah, fou. Ouais, je pense qu'il y en a plein. d'exemple particulier, mais je pense que c'est pour tout illustrateur qui démarre, c'est un peu ça. Hein.
Mais c'est rassurant quand même. Genre, je sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est rassurant de savoir que en fait on se crame tous et que en fait c'est pas facile et qu'on balbutie tous au début, quoi.
Ouais, et puis je pense faut pas hésiter au début à demander à d'autres gens comment ils font pour. Peut-être on était plus timide de le faire à l'époque. Maintenant j'ai l'impression que les choses se partagent plus et c'est bien. Voilà.
Enfin, les gens partagent plus.
Ouais.
Non mais c'est bien parce que peut-être qu'au début, je sais pas si vous l'avez. Si... C'était comment il y a 25 ans. Non, je déconne.
tu peux me demander. À l'époque.
Bim.
Toi je te connais. Est-ce que les gens.
Il n'y avait pas d'ordinateur.
Je passerais plus sur ça.
Oui, tu ne gères pas.
sur les murs des caves.
Alors il y avait des ordinateurs.
Est-ce qu'il y avait aussi autant de partage dans la profession qu'à l'époque qu'aujourd'hui?
Non, en fait c'est vrai que ça je pense que c'était ça apparaissait encore plus comme une citadelle imprenable, quoi. Fallait aller dans des vernissages et oser approcher des gens pour leur poser des questions et tout.
S'il vous plaît.
Et la sueur sur les bras.
Moi je le faisais pas, mais et c'est vrai que c'était un vrai problème. Alors qu'aujourd'hui, moi je reçois très souvent des messages de gens direct sur Instagram qui me posent plein de questions. Mais
de quoi je me mêle? Qui êtes-vous, monsieur?
Ah, ils sont complètement décomplexés.
Salut,
Pierre,
ça roule, on va se prendre une bière.
Ben il y a un truc comme ça, ouais.
Tu te fais draguer sur Insta.
Alors, pas exactement, mais c'est vrai que parfois c'est hyper genre. En fait, tu regardes le profil et puis tu te dis, mais en fait, il a 17 ans, quoi. Enfin, genre, il y va, quoi. Il a pas de problème.
Envoie aller sur Sens Créatif, tu vois, genre.
Voilà, c'est ça. Je leur dirai d'aller voir Sens Créatif. Mais en gros, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et puis, en fait, en général, moi, je réponds quand on me pose une question.
Non, mais t'es un gentil, toi.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondent.
Enfin, oui, c'est vrai.
En vrai, tu vas pas ghoster les gens en mode non, rien à foutre.
Tu mets un cœur à la question.
Voilà, c'est ça. Non, tu t'essayes de répondre et puis voilà. Et puis parfois t'as pas le temps, tu le fais pas, mais c'est jamais méchant.
Ouais, c'est vrai que c'est un milieu quand même majoritairement bienveillant. Genre, on peut quand même plutôt, il y a pas trop de snobisme, on peut se poser des questions.
Ouais, c'est.
On est ensemble.
Je pense que c'est plutôt. C'est plutôt cool, mais c'est normal, c'est humain, quoi.
Et un truc que vous auriez aimé savoir quand vous avez débuté, mais que l'expérience vous a appris, mais que ça vous aurait donné une longueur d'avance.
Et quelque chose que Pierre-Emmanuel t'a pas du tout expliqué à l'école et que tu as découvert après.
Bah, c'est vrai que toutes les parties administratives que vous avez déjà dit, comment faire la facture, moi surtout.
Vous trouvez un agent et un comptable, en fait.
Ouais, j'ai pas le comptable d'ailleurs.
Ah. Ça viendra.
Ouais.
Après, moi, je pense que je reviens sur ce truc d'être flex. En fait, d'être un peu moins. En fait, moi j'ai bossé avec quelqu'un qui m'a vraiment appris ça. Il s'appelle Gordon et c'est son pseudo. Et il est directeur artistique. Et en fait, vous le connaissez?
Non.
Le fameux Gordon.
C'est quelqu'un de vraiment incroyable et qui m'a en travaillant avec lui, moi j'ai observé comment il faisait et je me suis rendu compte que tout pouvait très bien se passer.
Ok.
Dans tous les cas, même dans des situations merdiques. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait tu te dis mais il y a toujours un moment. Où tu peux trouver une solution sans que ça devienne compliqué. Et quand on est jeune, c'est normal, on débute, on se fait une montagne de plein de trucs, on se pose plein de questions, on tient à des trucs qui sont complètement futiles. Et en fait, avec le temps, je pense qu'on arrive à mettre ça un peu de côté. Et en vrai, ça fait gagner un temps fou. Mmh. Mais vraiment, c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il faut savoir placer l'attention au bon endroit. C'est surtout ça le truc. C'est vraiment, il y a des trucs qui sont importants. Il y en a d'autres, c'est juste des détails.
Choisir ses combats.
Voilà, c'est ça. Il faut choisir les bons trucs sur lesquels tu vas lutter. Et une fois que t'as défini ça, ça va mieux, quoi.
Alors, l'histoire la plus drôle que vous pourriez raconter sur votre carrière.
Sur Gorduc et Boucard.
Réfléchir.
On réfléchisse.
On va se concerter.
Et là, il y a des messes basses, des petits regards.
Continuons.
Yukiko, tu sais rebondir sur cette question?
Non, pas trop, ça me vient pas tout de suite.
C'est plus pas drôle, drôle l'illustration. Ouais, un truc marrant.
Sérieux. Ouais, c'est super sérieux.
C'est dur comme question. Ou un truc un peu what the fuck, quoi. Tu vois, tu te dis genre, non, ça m'est arrivé ce truc. Non, mais attendez.
C'est la question qui tombe à l'eau.
Mais non, mais il aurait fallu nous la poser en avant.
Il fallait envoyer.
On a sans doute des choses.
Vous avez quoi comme réponse?
On est un peu pris de court.
Vous avez quoi comme réponse, par exemple?
Ah ouais, nous, c'est vrai. L'histoire la plus drôle. Lancer ce podcast, qu'est-ce qui m'a pris, franchement? Non, je sais pas.
Bon, on a failli l'arrêter plein de fois déjà.
Ouais, mais c'est pas drôle ça.
Bah, c'est pas drôle, mais en même temps, ce qui est super drôle, c'est qu'on recommence à chaque fois.
Non, mais
fois.
C'est vrai, vous avez raison. Je pose la question, et même en moi, fait... je me creusais.
Non.
Si, j'ai failli faire des illustrations pour une marque de maillot de bain russe, et c'était vraiment très chelou. Et ils étaient même, on va venir et on va filmer.
Le client marron.
On va filmer une vidéo avec vous pour faire la promo. Ouais. Et en fait, j'étais genre, je crois qu'ils vont me kidnapper. Je ne. Et c'était très très chelou. Je me souviens même que je pense que je l'avais envoyé à l'agent qui allait devenir, enfin à la personne qui allait devenir mon agent, Sophie donc. Et c'était un peu genre non, c'est un peu enfoiré. Voilà, donc j'ai failli faire des maillots de bain russes. Voilà, mais c'était vraiment très chelou. Je pense que j'ai d'autres trucs marrants, mais qu'est-ce que...
Mais en client, il y a toujours des trucs rigolants.
Ouais.
Enfin, moi, quand je cherchais un stage à l'ENSAD, j'étais désespéré. Je devais le faire au Québec. Et j'avais fini par trouver une boîte qui faisait des designs de flippers. Et c'était génial, mais c'était totalement improbable parce que je me disais, mais ça n'existe plus aujourd'hui, enfin. Et j'étais pris, mais j'y suis pas allé finalement.
Ah non. Non. Mais t'aurais une autre carrière.
Tu vois, une autre vie, quoi.
Une autre vie.
C'est vrai, tu te dis, c'est un tout autre univers et c'est incroyable, quoi. Mais ça, c'est le truc le plus insolite, je pense. Design de flippers.
Design de flipper, maillot de bain.
Je sais pas, franchement. Ouais. Dans votre longue carrière.
Moi, une de mes illus s'est retrouvée sur un t-shirt sous le marché noir à Londres. Voilà. Je l'ai acheté moi-même ma propre contrefaçon.
Stylé.
Quelqu'un m'a envoyé à côté de Obey et Nike. J'étais genre stylé. Je suis copié depuis 2012, tu vois.
Et ça coûtait combien?
Bah, écoute, j'étais vexé. Je pense que c'était 5 pounds ou un truc comme ça. J'étais genre, je vaux 5 pounds sur un t-shirt de contrefaçon. Je leur ai demandé, j'ai dit, oh, il est cool ce t-shirt. Qui l'a fait? Ouais, c'est un nouveau modèle. Je fais, ouais, super. Et c'est qui le, parce que voilà, j'étais un petit peu en mode mission, quoi. Et je leur ai demandé, du coup, un sac pour avoir un petit peu les coordonnées de l'entreprise. Ils m'ont donné un sac blanc. J'ai fait, ah, cool. Je peux avoir un ticket? Non. Ah. Et du coup, moi, j'ai des petits oiseaux qui se faisaient un bisou. C'était très, très kitsch, mais voilà. C'était en 2011. Bref. Est-ce que ça vous a inspiré des trucs?
Une question
très sens créatif, d'accord. La période la plus compliquée. Et comment vous avez fait pour vous en sortir?
Oh putain, mais c'est hyper sérieux, en fait.
Ah bah attendez.
Flombe ce podcast.
Vous racontez pas des blagues, alors bon.
C'est quoi la période la plus triste, alors?
Oui.
Non, mais
nous, c'était assez progressif. On est sorti de l'école, on a eu un plan pour un atelier, après on a changé d'atelier. Enfin, ça a été assez progressif, donc il n'y a pas eu vraiment de période.
Ouais. Bah, à la rigueur, peut-être depuis que j'ai déménagé de Paris.
Ouais, j'allais y venir. Ouais, est-ce que ça change?
Bah, ça a mis peut-être un peu de temps.
Ça change la dynamique,
quoi. Ouais, mais c'était un peu l'année du Covid aussi, où c'était un peu ralenti globalement partout.
Donc, on a eu du temps pour s'adapter aussi.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, ce serait ça, la rigueur.
Donc, maintenant, avec la distance, comment vous bossez? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a modifié? Qu'est-ce que ça a transformé finalement dans votre organisation?
En vrai, pas tant de choses que ça. Ouais, c'est ça.
Bureau, mais sinon,
ouais.
OCN, elle vient pour imprimer de la sérigraphie. Ouais. Moi, je viens.
C'est peut-être moins les moments de latence où, vu qu'on n'a pas d'atelier au quotidien à partager, quand on n'a rien à faire, on se lançait directement sur un projet. Il y a peut-être plus ce truc-là. Ouais. Mais à part ça, sinon, au niveau de la gestion des projets et tout, c'est un peu similaire.
Et toi, Yukiko, tu travailles chez toi, dans un atelier?
Ouais,
ou
je
en
travaille
coworking.
À la maison. Ouais,
donc, tu t'es aménagé?
Dans mon domicile, dans une chambre, petite chambre, qui est mon atelier, sur le bureau. Je travaille pas le grand format, donc j'ai pas forcément besoin de grands espaces. Ouais.
Mais quand même, pour la peinture, enfin, grande table.
Ben, le table de Ikea, 70 x 150.
Ah, c'est très précis, ça. La hauteur?
La hauteur.
Et une bonne lumière.
Oui, ah oui, j'ai acheté la nouvelle
la lampe,
lumière.
Ikea, aussi.
Non.
La redoute.
Non. Non. JLD.
Ah, super. Hein.
Oui, j'aime bien.
Voilà. Donc, et vous, des moments qui étaient peut-être plus challengeants, et pas le pire du pire, mais genre des moments qui étaient challengeants dans votre carrière et que... On est là pour se dire les choses.
Bah, il y a forcément des moments plus tristes. Donc ça, bon.
Oui, c'est la vie perso, ouais, bien sûr.
C'est la vie perso, mais du coup, ça déborde et tout, parfois sur la vie professionnelle. Après, je pense que l'un des gros challenges que j'ai eu dans ma carrière, c'était, on a commencé une série d'animation il y a 8 ans avec 2 co-réalisateurs. Dont le fameux Gordon dont je parle.
Uh-huh. Gordon.
Et c'est une série d'animation pour la jeunesse et ça va sortir là à Noël. Ça fait 8 ans que je bosse dessus.
Ah oui, c'est
et
donc
8 ans. En fait, t'as vraiment du temps pour te poser plein de questions.
Ah, oui, bah, ouais,
c'est et ça, même ça. Savoir si tu vas aller au bout de ce projet, quoi.
Les mouilles passent.
Et
quoi.
Et en fait, en vrai, c'est assez beau quand ça se termine parce
ça,
que tu
ça
fais
termine,
un...
là.
Ouais, bah là c'est fini, là ça sort. Le 24 décembre sur France 2.
Yes.
Enfin, c'est pas sur France 2, c'est sur France 4. Et c'est très sympa. C'est mais en vrai, c'est un vrai truc quand ça se finit, t'es ému quoi. Mm. Et puis tu fais un peu le bilan de qui t'étais quand t'as commencé ce projet et ce que enfin là où t'es. Enfin, quand j'ai commencé ce projet, j'avais pas d'enfant. Maintenant, j'en ai 2. Enfin, il y a plein de, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Et pour mes 2 camarades de jeu, mes co-réalisateurs, c'est pareil. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés dans leur vie. Et voilà, c'est une aventure, quoi. C'est un truc qu'on partage. C'est avec tous les coups durs qui vont avec, toutes les joies qui vont avec. Et voilà. Et c'est assez beau quand un projet te suit comme ça aussi longtemps.
Carrément.
Pour terminer, comment est-ce que l'illustration vous a transformé? Et ouais, je sais, sens créatif, quoi.
Ouais, qui étiez-vous
à Maloto?
Avant de pas être illustratrice.
Qu'est-ce que ça vous a apporté?
Par exemple, finalement, dans le cas de Grosduc et Bouka, qu'est-ce que le duo, il vous apporte en plus, en fait?
Ben moi je sais que j'aime pas trop être toute seule. Du coup c'est beaucoup plus motivant je trouve de travailler à deux, d'avoir une dynamique de projet à deux et tout, de partager aussi pendant que tu travailles. Enfin moi je sais que j'aime bien ça. Enfin j'aime bien rigoler aussi donc quand t'es tout seul devant ton ilu, tu rigoles moins que quand t'es à deux et que tu t'envoies les trucs.
Moi j'ai une question hyper pratique mais c'est vraiment hein. Vous avez créé une boîte ou un studio ou
non,
un...
non on est deux
on est tous les deux à la maison des enfin
d'accord vous êtes indépendants
on divise les factures
quand on a un duo
non, à chaque
comme
fois
ça,
deux factures
on...
ouais. Quoi qu'il arrive
d'accord
ah oui d'accord
enfin il y a quelques où il y a parfois ils veulent pas le faire on fait des rétrocessions mais...
Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, parce que c'est.
Mais c'est un peu compliqué.
Quand c'est avec l'agence, c'est pratique. Ouais, ouais. Mais voilà, sinon c'est rétrocession.
Ouais. Non, non, même il y a plein de clients qui acceptent la double facture.
Oui, c'est d'accord, pas... ouais, mais quand, voilà, quand ça arrive pas, du coup, c'est.
Et vous êtes jamais dit que vous vouliez genre vraiment créer une entité, quoi, un studio
si,
qui
mais...
vous permettrait de d'engager des gens.
On n'est pas assez fortes administrativement.
c'est leur
kryptonite de l'empire.
Franchement, pour répondre à cette question-là,
si peut-être au tout début, on s'est demandé si on voulait pas faire un studio graphisme slash illu.
On a fait 2-3 rendez-vous à la maison des artistes où on nous a fait un peu, je sais pas comment on fait. Du coup, on a un peu abandonné.
Ah oui, ils ont carrément dit ça. Mais non, mais il y a une réalité, c'est que si tu montes une société, t'es pas au même statut qu'artiste auteur, quoi. Et du coup, l'URSSAF c'est beaucoup plus violent, quoi. Et ce truc-là, c'est vrai que c'est une vraie question quand tu as finalement une petite entité, 2 petites entités qui essayent d'en faire une. Tu te dis, non, je suis encore une petite entité. Donc du coup, gardons nos statuts, puis effectivement, la solution se passe quelque part. Ça joue au niveau des factures, quoi.
Mais on
s'est posé la question.
Ah
hein.
Oui. Bah oui, oui, c'est pareil.
Deux.
C'est une entreprise.
Eh ben non.
Sans
non.
On est des bricoleux aussi. Hein,
voilà, d'accord. Donc on fait pareil.
Ça,
on
fait tous des
non mais c'était après ça vaut le coup de. Enfin moi je pense que c'est un bon sujet d'émission mais... d'ailleurs. Un jour c'est de parler vraiment de ça parce que en fait on. C'est un peu mystérieux pour.
On a fait un épisode consacré à
avec Central Vapeur,
avec Central Vapeur Pro, wow. Qui sont à Strasbourg,
avec Laure Bettinger, voilà. Donc là, on a adressé le sujet.
Vous pouvez aller l'écouter. Il est sur toutes les plateformes. On parle de.
Il vient de sortir cette semaine.
D'accord.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Je vais écouter ça.
Où est-vous le voyage de l'illustration là?
Je m'épanouis surtout. Mm-hmm. Quand je sors, je peins. C'est le moment. Enfin, même si c'est pour le projet clientèle. J'essaye de faire quelque chose qui me plaît déjà, en même temps de répondre au brief. Et puis, quand j'ai pas le projet pro, j'essaye de dessiner toujours pour moi. Par exemple, le carnet de voyage, des trucs, des nouveaux essais et tout. Et j'aime bien le fait que le résultat sort sur papier, ce que j'avais tout imaginé dans la tête.
Ouais, c'est magique.
Et j'aime bien voir le résultat. Et puis maintenant, vu qu'il y a tous les réseaux sociaux, on peut avoir les feedbacks tout de suite, direct. Une fois que j'ai posté, enfin.
Mais c'est gratifiant aussi.
Oui.
Avoir une réaction directe.
Et le fait d'être expatrié, tu viens du Japon. Qu'est-ce que ça a transformé pour toi et qu'est-ce que tu trouves en France en fait hein, que t'as fait
pas surtout à Paris, je pense que c'est une ville quand même super riche comme au niveau de culture, illustration et tout. Et parce que quand j'étais au Japon, c'était pas vraiment au centre de Tokyo.
Ouais.
Je viens de Nagoya qui est.
Je le connais bien.
Ouais. Entre Osaka et Tokyo, c'est une ville industrielle de la base, donc il y avait pas forcément de culture.
Oui, c'est pas la plus fun.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis j'avais aucun contact professionnel, même les amis créateurs, créatrices. Du coup, je pense que c'est oui. Ici, c'est vraiment riche, je trouve.
Pierre.
Je me rappelle pas trop de la question.
Non, mais c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. C'est juste ça.
C'est quoi?
C'est comment?
Ah, le mot de la fin.
Comment,
okay.
Comment l'illustration
t'a transformé?
T'a transformé. Tu prends la question comme tu veux.
Non, mais je pense que c'est un petit peu comme Yukiko. Moi, je pense qu'il y a un truc qui rend heureux de pratiquer ça. Juste à titre d'exemple, ça faisait, je pense, un bon mois que j'avais pas dessiné. J'avais pas dessiné vraiment sur papier. Hein. J'avais dessiné sur tablette, j'avais fait des trucs rapides. Et en fait, là, il a fallu que je fasse un dessin pour une commande papier. Et je me suis rendu compte à quel point c'était un truc qui te fait sentir bien, quoi. C'est vraiment un acte. C'est un peu comme du yoga ou un truc. Et quand on y revient. On se dit waouh, mais c'est quand même genre super cool quoi de faire ça, d'avoir du temps pour ça, de pouvoir en faire notre métier. Donc là, tu apprécies et tu te dis c'est de la chance quoi. Donc voilà, je pense que juste se rendre compte de ça, c'est cool.
C'était Groduc et Bouka, Yukiko Noritake et Pierre-Emmanuel Lillet.
Merci.
Merci à vous pour votre temps, pour répondre à nos questions. On va passer un tout petit temps encore. Je pense que la Mia, elle veut nous cuisiner. Elle nous a dit, vous me cassez pas, là, je vais vous poser deux, trois questions. Donc, je sais pas où est la Mia.
Et la Mia.
Mais il me semble qu'elle veut nous faire la bonne aventure, là, parce que vous le savez peut-être pas.
Je viens avec mon tarot.
Ça va, là?
Ça va, oui. Ça va, et toi?
Ben voilà, donc la mission ce soir, c'est de poser. Alors tout le monde est invité à intervenir aussi. Hein.
Ah oui, bien sûr.
C'est de cuisiner
oui.
Laurent et Jérémy.
Parce que c'est le voilà.
J'ai 20 minutes.
Voilà, t'as 20 minutes. Et c'est un peu
pour
le.
Pour tout savoir.
Le c'est le dernier épisode de la saison 5, mais c'est un peu toute une aventure. Donc.
Voilà, c'est le dernier épisode de l'année. Voilà, on est très contents de vous accueillir ici, l'enregistrer. Ouais,
merci, on est très contents d'être là.
Alors évidemment, question. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous anime?
Vas-y.
Ok, je suis Laurent Bazar, je suis pixel artiste, soon to be sound designer et peut-être producteur de musique. C'est un petit peu mon ambition de cette année. Je fais également du podcast et maintenant des formations aussi, des bootcamps.
Ah.
C'est vrai.
Ouais, j'ai un petit peu élargi aussi. Parce que pendant 17 ans, j'étais vraiment uniquement illustrateur.
Voilà. D'accord.
Et j'ai pris un petit virage grâce à Jérémy. Et ce qui me fait lever d'huile le matin, moi, c'est le besoin. Alors pas les petits besoins, pas les gros besoins.
Ça pourrait, hein.
Ouais, ça pourrait, mais évidemment. Mais c'est vraiment le besoin d'aller affronter mon sujet de prédilection, qui est le chaos. Voilà, j'adore le chaos, j'adore mettre le bordel. Je m'appelle Laurent Bazar.
Ah, c'est vrai, une résonance sur ta personnalité. Vraiment, tous les matins, vraiment. Tu dis que tu veux...
Ouais, je veux perturber.
Le bordel.
Ouais, je veux mettre la zone,
désorganiser
perturber.
L'ordre.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est un tout aussi, c'est parce que j'ai besoin aussi d'ordre. Donc du coup, je vais chercher un petit peu les méthodologies qui me permettent d'organiser le chaos. Voilà.
Ça vous inspire un peu, les groupes de Picard, ça. Vous avez fait une exposition.
On a répondu à le café et tout. Ça savait pas qu'il fallait faire un truc élaboré.
C'est clair. On voit que tu veux répondre à cette question depuis longtemps.
C'est trop facile, on la pose à tout le monde. J'ai eu le temps d'y réfléchir.
Pourquoi les gros ducs et bocards, ils sont désorganisés ou...
Non, mais vous aviez
pas du tout
qui s'appelait La Tempête, avec un observateur de tempête.
Ah oui, on a fait pas mal de catastrophes.
En général, quand même, hein, c'est un peu oui. C'est un peu le chaos. Hein. Un chaos organisé.
Oui. C'est ça.
Et toi, Jérémy ?
Donc, moi, Jérémy, belge, illustrateur, podcasteur, papa... moi, ce qui me fait lever le matin, c'est vraiment le fait d'être en lien, quoi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me drivait. C'est-à-dire, j'aime beaucoup faire l'illustration pour communiquer, et je me suis rendu compte que, in fine, l'image était surtout un vecteur de communication. Donc, pour moi, ce que j'aime bien, c'est vous, c'est être en lien.
C'est tisser des liens les uns avec les autres.
Ça, c'est vraiment tisser un maillage humain, être en lien, mettre les gens en lien, c'est vraiment un truc qui m'anime, ouais.
D'accord. Mais c'est vrai que depuis toutes ces émissions, tout à l'heure tu disais que vous en aviez enregistré presque 100.
Un peu plus de 100, ouais.
Un peu plus de 100 depuis 5 saisons. Là, vous êtes un peu les psys, vous avez mis sur le divan tous les illustrateurs, vous êtes un peu les psys de la profession.
Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu pour ça qu'on nous écoute, je crois.
Bah, on aime bien le faire, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Parle-moi de ton enfance.
Non, mais par contre, on n'aime pas le côté thérapie, même si ça reste une thérapie toujours de dialoguer, de s'exprimer, justement de rencontrer aussi les collègues, les confrères, les consœurs. Mais surtout, ce qui est vachement intéressant, c'est le voyage, quoi, des gens. C'est le chemin qu'ils ont pris, et puis qu'est-ce qu'ils ont appris sur ce chemin-là. Finalement, les objectifs, le but, c'est toujours le futur.
Mais il y a un côté thérapeutique, hein, je pense, à passer sur le grill d'un podcast et d'avoir cette écoute active, en fait. Mmh. D'avoir une écoute comme ça pendant une heure et demie. Pour les deux, enfin, moi, c'est de l'investigation, c'est-à-dire que j'aime bien nerder sur mes sujets, donc du coup, c'est chouette de pouvoir creuser, et de, au bout de, je sais pas moi, 115 épisodes, tu te fais un peu une idée quand même. Mais surtout pour les personnes qu'on interview, je veux dire, c'est pas tous les jours, hormis dans un cadre thérapeutique, que quelqu'un t'écoute et te dit genre, ok, vas-y, continue, je t'écoute, ouais. Et on t'a interviewé toi aussi,
oui,
Damien.
C'est vrai que vous mettez très à l'aise et à la fin, on s'abandonne complètement, on raconte notre vie et tout, oh là là.
Ouais, mais c'est ça, c'est créer cet environnement pour que les gens se racontent.
Oui, c'est vrai.
Et qu'il y a un environnement d'écoute. En fait, pour moi, c'est pour ça que je suis très attaché aux médias podcast. C'est que je trouve qu'il y a peu d'espace dans l'espace médiatique d'écoute active longue. On est vraiment à la recherche des buzzwords, des petites vidéos d'une minute qui vont vite, qui claquent et tout. Le podcast, ça demande vraiment un temps. Et on écoute, en fait. C'est-à-dire que vous subissez pas un podcast, genre vous n'avez pas le choix. En fait, vous écoutez le podcast, vous vous dites, tiens, je vais écouter Gros Duc et Boucard.
Des moments choisis à chaque fois.
Voilà, ça c'est important pour moi, ouais.
Et du coup, est-ce que ça vous a rapporté, vous, enfin, à écouter les gens? Est-ce que ça vous a nourri aussi? Est-ce que ça a orienté des choses chez vous dans votre façon de travailler? Parce qu'à écouter tous ces artistes, est-ce que ça vous a pas apporté à vous aussi dans ce que vous faites? Des choses?
Bah, chaque épisode, moi, encore une fois, c'est vraiment le parcours des gens que je trouve incroyable. C'est la richesse et finalement la diversité des chemins qui sont pris. Et parce qu'en fait, on a plus ou moins toutes et tous ce même besoin de créer. C'est vraiment un truc, quoi. C'est le simple fait de se mettre à sa table à dessin sur son ordinateur, prendre sa guitare, je sais pas. Bon. C'est super kiffant, quoi, quand on est dans ce flow là créatif. Mais le fait d'avoir cet écho là et ce miroir là avec tous les autres, ça donne une impression d'universalité. Où on se dit, en fait, on peut se nourrir finalement des parcours des autres et vivre par procuration d'autres destinées.
C'est inspirant aussi.
Ouais, mais carrément, c'est ça. Et c'est chouette parce que moi, je me dis, je peux vraiment faire mon kiff parce que je sais qu'à côté, il y en a, ils font leur kiff aussi. Donc c'est chouette parce que il y a ce ping-pong là en fait, un petit peu everything is connected.
Moi je sais qu'à la base de Sens Créatif, il y avait une question qui était vraiment parce qu'on fait des métiers très solitaires, on est beaucoup des sortes d'ours un peu mal léchés dans nos grottes où on aime pas trop voir du monde et tout. Je suis sûr que ce soir il y en a quelques-uns qui sont en PLS là-bas, il y a tellement de gens autour de moi. Mais en fait, moi j'avais le questionnement, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis tout seul avec ces questionnements, avec le fait que l'illustration c'est un métier formidable, mais c'est quand même pas toujours évident. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que non, en fait, j'étais pas tout seul. Et c'est toujours ce lien.
Bah, t'as créé une sacrée communauté. Enfin, vous avez créé avec Sens Créatif une communauté.
Oui, c'est vous.
De gens, mais oui, c'est vrai. Je pense que c'est une référence. Hein.
Ouais. Allez.
C'est une référence.
Allez. Voilà.
Et ça peut-être aussi penser t'appeler aussi de toi, enfin de penser t'appeler de ça aussi compenser la solitude que tu ressentais peut-être en tant que, parce que c'est vrai qu'on sait ça que c'est un métier. Et on est assez isolé et on crée seul et bon, sauf ceux qui partagent des ateliers et tout ça, mais malgré tout. Bah, donc ça t'a aidé toi à te sentir
J'ai beaucoup reçu de pères qui étaient dans la profession, qui étaient plus âgés que moi, et en fait j'ai aussi beaucoup reçu de podcasts, mais anglophones en fait. Il y avait peu de choses qui existaient en français. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans une période de galère, parce que clairement, j'ai lancé Sens Créatif pour sauver ma carrière d'illustrateur. Hein. C'était le seul but vraiment au début, notamment quand j'ai eu mon premier enfant. Ça a été un raz-de-marée. Et du coup, c'était genre, bon, comment... Si d'autres personnes ont l'air de s'en sortir, comment...
Ah, t'as créé ce podcast pour avoir des tuyaux, en fait.
Ah, mais tout à fait. C'était totalement assumé au début. Quoi. C'était genre, vous avez fait comment? Parce que moi, je galère et vous avez l'air d'y aller. Et puis après, d'accord, ils m'ont tous dit genre, non, mais moi aussi, en fait, j'ai galéré sur ci, sur ça. Et c'est genre... Ah, et puis des gens petit à petit m'écrivent en disant ah ça fait du bien parce que moi aussi quand tel le pronom rockstar de l'illustration partage exactement la même problématique, en fait ça rassure de ouf et tu te dis genre ah ok en fait donc
c'est ça qui a créé la genèse du Sens Créatif, c'est ça, c'est ce besoin aussi, enfin c'est toi t'étais tout seul après Laurent t'as rejoint, mais c'était pour essayer de tisser, de mailler une communauté pour que ça te apporte à toi aussi en fait.
À la base, c'est vraiment une initiative personnelle. Puis très très vite, j'ai voulu rencontrer gros guillemets mon public. Donc on a organisé le premier apéro pique-nique. J'ai lancé le podcast en avril 2019. J'ai lancé le podcast en avril 2019. En août 2019, j'ai organisé le premier apéro pique-nique à Paris. Il y avait 25 personnes. Et puis en novembre, on était chez toi pour le premier enregistrement en public. Et là, il y avait 45 personnes. Et là, je me suis dit, je sais pas combien vous êtes ce soir. Plus ou moins, un petit peu plus peut-être, je sais pas. Et je me suis dit ah ok, en fait on est plein et ça fait un bien fou et c'est un petit peu addictif en fait. Et puis aussi il faut dire ce qui est, c'est grisant de pouvoir aller rencontrer ces héros de l'illustration, du dessin, de la bande dessinée, et que juste parce que t'as un prétexte, c'est-à-dire j'ai un podcast, je peux vous poser d'autres questions, mais oui bien sûr. Et là tu te dis genre mais c'est trop bien,
tout le monde dit oui
enfin presque tout le monde.
Presque tout le monde.
Mais ça, c'est quand même cool, quoi.
Ah ouais, c'est bien comme
question. Non, balance pas les noms, là.
Si on peut, et puis de toute façon, il va pas écouter, ça va pas le vexer. Philippe Catherine, il nous a dit non, mais parce que, mais je vous explique pourquoi. Il nous a dit non parce que c'était pas le bon moment. Donc en fait, on a appris aussi qu'on peut pas forcément aller voir les gens n'importe quand. C'est que des fois, en fait, ils ont des agendas. Et notre côté,
justement. Enfin,
et Philippe, si t'es là.
Ah, Philippe!
Et notre côté mignon, il a pas suffi, en fait. Il a pas suffi. Voilà.
Oui, parce qu'on dit souvent que la communauté Sens Créatif, on est un peu des punk bisounours. Et donc, du coup, quand il a sorti son expo sur le mignonisme, nous, on était genre, mais on a plein de choses à se raconter. Ouais, et puis, il fait du dessin et c'est incroyable, son dessin.
C'est un faux mignon.
C'est un faux mignon. Tu trouves, ouais.
Ouais, je pense. Pas... S'il a refusé, c'est que c'est un faux mignon.
Il a été très mignon, par contre, tu vois, en fait.
Parce que son refus. Il nous a refusé devant nous, hein. Ouais. On l'a rencontré à une des séances de dédicace.
Art Hazard.
Laurent avait fait son portrait en pixel.
Je m'étais donné.
Voilà. On lui a fait des cadeaux et tout. Et puis, genre, j'ai besoin de, je suis en période de jachère.
Exactement. Et j'adorais cette réponse.
Ça ressemble à Philippe Catherine.
Alors ça, c'est un appel à ce que vous le réinvitiez. Il est en train de vous demander, c'est un appel du pied, là, de Philippe Catherine.
Voilà,
mais on n'est pas assez gros, en fait. C'est-à-dire que les podcasts et tout, on est tout le temps en bout de fil avec les médias et donc, du coup, on loupe tout le temps les...
Oui, c'est vrai, on n'est pas dans l'actualité, ça. On fait un podcast posé.
On loupe tout le temps les gros trucs.
Les discussions.
Voilà. Après, ils sont super sollicités aussi.
Ben, c'est ça, voilà. On a été frappés un peu trop. C'est une bonne expérience, quoi.
Voilà.
Et alors, comment est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux?
Oula. Ah bah, ça, c'est Jérémy qui commence cette histoire.
J'ai déménagé à Paris en 2013 dans le but de rejoindre ma chérie et de me lancer en tant qu'illustrateur.
C'était pas moi.
Voilà. Arrête, mon amour. Et puis en fait, on a un ami commun qui m'a dit « Mais en fait, si tu vas à Paris, il faut à tout prix que tu ailles frapper à la porte de chez Laurent, parce qu'il le dira pas lui-même, mais c'est une rockstar de l'illustration. » C'est ce que mon ami avait dit.
Comme t'étais vachement timide, tu m'as envoyé un mail plutôt.
Voilà. Et en fait, on a commencé à s'envoyer des mails. Et en fait, on est tous les deux super bavards. Et vu que j'habitais en Angleterre à ce moment-là, juste avant, à Oxford, lui a dit « J'aimerais trop habiter à Oxford. » Du coup, on parlait illustration, Angleterre, on avait plein de choses à se raconter. Et puis, je suis allé chez lui. Et en fait, il avait son premier enfant qui était tout petit, un tout petit bébé. Et en fait, il m'a donné 2-3 conseils. Il m'a mis le pied à l'étrier dans l'illustration.
Ah oui.
Et puis...
Parce que toi, au démarrage, t'es graphiste, hein, c'est ça?
Ouais, graphiste pendant 3 ans. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie qu'en faisant de l'illustration, je me suis dit, mais c'est formidable. Et que je veux savoir comment. Et vu qu'a priori...
Donc c'est la bonne fée, c'est ta bonne fée, Laurent.
C'est un peu ça, ouais. Voilà. Et tout le monde fait, oh...
I'm the fairy. Mais moi, en fait, j'ai eu des bonnes fées aussi. Donc, du coup, pour moi, c'était naturel de renvoyer ce qu'on m'avait finalement donné à l'époque. Coucou Jean-Marc. Mmh. Et voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est
quoi.
Ça, renvoyer la balle. Parce qu'on peut pas la renvoyer tout de suite, en fait. On a toujours ce petit côté justement d'être redevable. Et quand on est quand c'est un aîné qui nous donne des tuyaux, on peut pas lui renvoyer la balle comme ça, en fait. Donc en fait, il faut la renvoyer à quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Et c'est comme ça qu'on a cette idée de transmission là. Et ça fait partie aussi de l'ADN de Sens Créatif, justement, de dire ok, tu viens te servir, mais peut-être qu'un jour tu pourras donner à quelqu'un. Mais c'est pas grave si maintenant tu te sers.
Ouais, c'est un peu l'ADN de Sens Créatif. Ça.
Oui.
Est-ce que vous avez une anecdote à raconter d'un podcast qui a été calamiteux ou bien pas forcément calamiteux, mais une expérience un peu cocasse, un souvenir chacun?
T'en as des comme ça.
C'est quoi cette question?
Quand t'oublies les... Ouais, ça,
si
déjà...
se passe pas du tout comme prévu.
Quand t'oublies les piles.
Ouais, mais il y en a un tout particulier.
Merde.
Au fond d'une piscine.
Ah oui, alors par contre, ça c'est un très très bon souvenir. On a fait un podcast à Orléans.
Au fond d'une piscine,
dans le cadre d'un festival qui était organisé par Nicolas Baron.
Une piscine vide. Hein,
et Jean-Michel Ouvry, hein, ouais. Voilà. Et le Loire Archo.
Ouais.
Et donc, ils nous ont dit, ouais, pas de souci. Hein, on a un truc délire, c'est qu'on a en fait on a un grand espace, c'est une piscine, et on pourrait faire le podcast à l'intérieur de la piscine.
Et on s'est dit, ouais, trop cool.
Trop cool.
En fait, on n'entendait rien.
Inconscient.
Ah oui.
Ouais, on était comme ici, on avait fait une table ronde avec 3 autres invités, et en fait, on se posait des questions, on les entendait absolument pas.
Donc la piscine, en fait, elle servait de rampe de lancement et de toboggan à plein d'enfants, en fait, qui tournaient autour de nous.
C'est du skate, comme dans un clip des années 80, là, un peu de rock, là, où les gens tournent autour de nous.
Donc on n'entendait pas très bien nos invités, donc ils ont joué le jeu à fond, c'était...
Mais il est exploitable, le podcast, après coup, quand même.
Incroyable. En fait, on avait un ingénieur du son, avec nous qui était là pour le festival, et il a trouvé les bons micros, il a géré de ouf, et en fait le son il est ok.
Bon.
Et c'est marrant d'avoir de cette mis finalement dans un espèce de chaos total, parce que ça donne une couleur à cet épisode qui est incroyable.
C'est sûr, mais ça vous est jamais arrivé d'oublier de brancher par exemple les micros quoi?
Si.
Ça c'est drôle.
Si, refaire des interviews parce que l'interview est foirée, c'est déjà arrivé.
Oui, on a eu ça avec vous le saurez maintenant, avec Jérémy Martinez de Kiblind. On a fait on a lancé, c'était sur Twitch, non, parce que cette année on l'a fait en public. Et en fait, en direct, pardon. Et on a commencé, je pense qu'on a causé 10 minutes, facile. Ouais. Et on voyait pas du coup les gens dans le chat qui disaient, vous les entendez, vous? Non, non, bah non, non, moi j'entends rien, non. Et au bout de 10 minutes, c'est genre, ah, mince. Et du coup, on a relancé et j'ai pas joué la carte de la vulnérabilité, là, pour le coup. J'ai pas du tout dit aux gens, genre, En fait, on l'a refait comme si...
Mais Jérémy l'a assuré, hein,
L'autre Jérémy,
ouais. L'autre Jérémy l'a assuré.
On a posé les mêmes questions, il a donné les mêmes réponses, jusqu'à ce qu'on arrive...
On a des bons clients.
Mais je pense qu'on a eu d'autres merdes, mais je m'en souviens plus, là.
Mais en fait, ouais, forcément que...
Non, on est des professionnels. On est des professionnels.
Est-ce qu'il y en a un qui prend le... qui essaye de temporiser? Qu'est-ce que... En général, dans votre duo, comment vous... vous interagissez?
On a eu une interview, je dirais pas forcément laquelle, mais où en fait, on a fait une première take. Et en fait, où, au fur et à mesure, je me disais, ça va pas du tout. Et après, à la fin, j'ai dit à Laurent, faut la refaire. Faut vraiment la refaire. Et on l'a dit directement à la personne,
ouais,
en fait.
Ouais.
Et ça nous a un petit peu mis mal, quand même.
Ouais.
Puis après, on a eu une petite crise à nous deux.
Ouais.
C'était genre, bon, comment on fait, nous?
Pourquoi on a foiré comme ça?
Et ça rigole, là.
Pourquoi on a autant foiré, quoi?
J'ai peur que vous... Faut la refaire, là.
Non, ne t'inquiète pas, Margot, tu as assuré.
Là, ça va, vous avez vérifié.
Ouais.
Et justement, dans votre, qu'est-ce que l'un apporte à l'autre? Qu'est-ce qui est la spécificité de chacun dans votre binôme? Est-ce que Laurent, il écrit les questions? Est-ce que les questions que vous posiez tout à l'heure à Océane et Margot, là, qui fait quoi?
On va la jouer miroir. Ce que Jérémy, il apporte, effectivement, bah, c'est tout le côté organisationnel. Je dis pas que Jérémy il est c'est un fanat de l'organisation, il est pas comme ça, mais par contre, il aime bien faire les choses à l'avance pour pas justement être dans le stress.
C'est mon petit côté contrôle.
Il déteste le stress, donc du coup,
Que toi t'aimes bien mettre du bazar. Hein.
Voilà.
Voilà, mais on a appris aussi à ce fonctionnement là, donc si tu veux répondre à adresser ça. Donc par exemple, c'est Jérémy qui fait souvent les fils des interviews,
ouais,
parce qu'il est très structuré et il me laisse en fait la place derrière pour rajouter en fait mes questions pourries puis il me laisse la place pendant les interviews pour complètement péter le truc.
Voilà, en fait Laurent, il vient mettre du chaos dans le côté peut-être un petit peu trop parfois un peu trop trop bordé, trop propre que je pourrais avoir. Et aussi, on a une différence d'âge, hein, vous le savez pas, mais en fait, on a...
Oh, je suis très vieux.
12 ans de différence.
Ouais.
Voilà.
Quel âge tu as physiquement?
Physiquement? Physiquement, j'ai 30 ans. Mais non, en fait, j'ai 47 ans.
Ah, franchement.
Voilà. Ah oui, hein,
non, tu portes bien, tu portes beau.
Merci.
Et en fait, on n'a pas la même histoire, ni la même culture, ni les mêmes références. Du coup, ce qui fait qu'en interview, quand quelqu'un me balance une référence un peu plus ancienne que la mienne, je peux faire l'impression que j'ai saisi parce
qu'on
les
archives,
ah, oui,
c'est
tout
ça.
À fait, oui.
Ouais, quand ça parle de Goldorak.
Voilà, c'est ça. Moi, je suis genre, Laurent, il est un peu plus sniper que moi. Et moi, je suis plutôt la personne qui structure l'interview. Et Laurent, il
déambule dedans et.
Ouais, et c'est aussi assez reposant. J'ai fait le podcast 3 ans tout seul. Et au bout d'un certain temps, ça devenait un petit peu. Bah, c'est quand même une certaine énergie et je me suis dit, si je continue, en fait, j'ai besoin d'avoir un binôme, en fait.
Mmh. Et donc, ça paraît super structuré comme on est en train de le dire là, on a trouvé le côté voilà leader sniper, mais on a essayé 50-50. On a essayé vraiment 50-50,
ça a pas marché,
les
non.
Inconscients absolus, et ça ne marche pas. Parce qu'en fait, 50-50, je sais pas pour vous, Gourduc et Boucard, mais 50-50, ça marche pas. En fait, il faut qu'il y ait une place de chaque personne qui soit prise en compte. Et c'est pas une histoire de pourcentage, en fait.
Margot, elle a l'air de, non, je sais pas.
Alors, non, mais si tu veux remonter. Mais en fait, c'est pas une histoire de pourcentage, c'est une histoire de c'est quoi ta place, c'est quoi la mienne, et comment, en fait, on fonctionne ensemble. Et c'est là que ça marche.
Parce que, ouais,
quand on fait ça, ça marche. Quand on oublie les pourcentages, ouais.
Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Pierre-Emmanuel, Yukiko?
Et après, on ouvrira à tout le monde. Hein.
Oui, voilà.
Vous pouvez vous venger, jamais, seulement.
Même des questions indiscrètes. Hein.
Ah, tu veux que je pose une question? J'en ai pas, moi. Non, mais en fait, c'était marrant, Philippe Catherine. En fait, Philippe Catherine, vous passez à un stade... Enfin, pour moi, c'est quand même un peu genre...
Ouais, bien sûr.
Vraiment connu, quoi.
Ouais, très connu,
on n'y arrive pas. On n'y arrive pas.
Et il y a eu d'autres gens comme ça?
Oui. Oh, on peut le dire. Hein.
Oui, on a failli avoir Riyad Satouf 2 fois.
Et ça, c'est pas possible.
Alors, pour tout vous dire, en fait, on se confronte à un truc auquel on n'avait pas forcément l'habitude, c'est les attachés de presse. Et donc, c'est un jeu différent. C'est-à-dire quand on va vraiment voir les personnes, c'est facile d'obtenir un 8. Et on a un 8, même plusieurs 8 de Riyad Satouf. J'ai même un 8 Vincent Lacoste, c'est pour vous dire. Mais forcément, on doit passer par l'attaché de presse qui va gérer, en fait, leur planning. Et là, c'est un enfer. Et quand elle veut pas quoi. Et donc du coup, bah, on réessayera sûrement.
Mais peut-être qu'en saison 6, hein, qui
peut-être.
Sait.
On n'abandonnera pas tant qu'on n'aura pas un nom définitif. Arrêtez de nous emmerder.
Il faut en choper un et après tous les autres vont venir.
C'est ça, la mienne, exactement. Oui. Il y a un petit côté, bah, tu perces le plafond de verre et du coup, bah, t'es dans un autre game, etc. Ouais. Mais franchement, on s'est rendu compte, ce plafond de verre, il nous a fait énormément de bien parce que, ok, on voulait péter le game. Parce qu'on avait cette ambition-là pour Sens Créatif, mais ça nous a aussi remis finalement dans la perspective qu'est-ce qu'attend finalement le public qui nous suit tout le temps.
Oui.
Et on s'est dit bah non, en fait, on parle aussi à des illustrateurs, des illustratrices, des gens de l'image, et c'est pas plus mal en fait qu'on continue ce format-là et qu'on revienne aux valeurs en fait qui étaient les nôtres au début. On a essayé, on a fait un laboratoire, et finalement ça nous a recadré. Et donc finalement c'est une victoire d'avoir testé et de cette foirée quoi.
Et moi j'ai une autre question, mais peut-être que vous l'avez déjà dit, le podcast, genre en par mois en écoute, ça représente quoi?
Tu veux des chiffres?
Ouais.
Je n'y connais rien. Je fais confiance.
Non mais sachant que vous allez me donner des chiffres, je vais pas avoir de moyens de comparaison, donc je vais pas.
Bah, si on peut le dire. Quand même.
Oui. En fait, on oscille entre 10 et 20 000 écoutes par mois, plus ou moins.
Alors, pour tous les podcasts confondus,
cumulés,
pour les
épisodes, cumulés, tous les épisodes cumulés, au meilleur de la santé de Sens Créatif, on a fait 20 000 et au moins bon, je sais pas, 8 000, je sais pas. Enfin, je dis en ce moment, quoi. Enfin, je veux dire.
Et donc, en ce moment, c'est un peu vache maigre.
Non, c'est un peu.
Il y a plus de podcasts et on fait moins de marketing aussi peut-être. Donc, ouais.
Mais en fait, c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup dans le podcast game, mais pour la niche qui est la nôtre, en fait. On se rend compte que c'est inestimable, quoi, de vous avoir, vous, qui nous écoutez, et que...
Bah, c'est une référence, je pense. Oui, que pas un illustrateur qui écoute pas Sens Créatif, hein.
Ouais. Ouais.
Non, mais c'est vrai. Bah oui.
Bah, on sait
oui,
pas.
Parce que ça pallie à tout ce que tu disais tout à l'heure, à ce qui est dur dans la vie d'un illustrateur, d'être isolé, de pas forcément pouvoir communiquer, ou bien, etc. Et donc, du coup, ça les met en lien.
C'est ça.
Et ça leur donne un peu de souffle aussi, hein, j'imagine, hein. Enfin, moi, je suis pas illustratrice, mais c'est un peu les témoignages qu'on a.
Mmh. Ouais. Ouais, ouais.
Et le Patate Club, justement, pour c'est aussi une autre initiative que vous avez eue pour tisser des liens plus serrés encore avec une...
Les patates, faites du bruit. Ouais. Ah, tout ça, c'est les personnes du Patate Club.
What else?
Voilà. Bah oui, non, bah, le Patate Club, sans vous, que serions-nous, quoi?
Alors, c'est quoi le Patate Club?
C'est la communauté qui soutient le podcast, mais c'est bien plus que ça, c'est... The blood and guts of the community. Ça sonne mieux en anglais. Je sais pas pourquoi. Ben oui, en fait, on a créé, en fait, le podcast a fédéré tout un petit monde. Et en fait, de soutien, les patates, on les appelle comme ça, hein, les patates, elles se retrouvent entre elles dans différentes régions de France. Il y a des ateliers. Ah oui. Il y a un livre, là. Il y a un livre qu'on a fait ensemble, là-bas, aux éditions exemplaires, un livre collectif.
Coucou Lisa Mandel.
On fait des...
Donc, il faut être illustratrice, illustrateur pour faire partie du Patate Club. Moi, je peux pas en faire partie, par exemple. C'est très injuste.
Si tu nous soutiens financièrement, Lamia, on t'accueillera à bras grands ouverts. À partir de 3 euros par mois, voilà.
C'est une histoire de fric. Non, mais en fait, voilà, ce qui est formidable, c'est que déjà, finalement, le pari de Jérémy au départ, qui était de connecter les gens entre eux, en fait, il est complètement tenu grâce à la communauté. Et en fait, on a exactement le même retour que quand on interview des gens du métier, parce que les gens qui font partie du Patate Club sont aussi des gens du métier. Et donc, en fait, cette richesse-là, ce qui nous amène tous les jours avec leurs questions, leurs idées, leurs motivations, ça nous nourrit énormément, ça nous permet d'avancer. Et puis mine de rien, en fait, ce soutien-là, il permet de produire le podcast. C'est-à-dire que de notre poche, en fait, on met rien pour produire le podcast. On met que notre énergie.
Quoi.
Ça s'autofinance. Non,
c'est grâce à vous, ça.
Voilà. Donc vraiment. Gros cœur sur toutes les patates
et les autres aussi,
personnes,
évidemment,
toutes les personnes qui nous écoutent et celles qui ont été patates qui le sont plus aussi.
Et patates, on a appelé ça le Patate Club parce que d'un côté on est une communauté qui se prend pas trop au sérieux et de l'autre on a envie de montrer qu'on en a dans le bide, quoi, qu'on a la patate, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc.
Et puis c'est tellement bon,
c'est tellement bon, les patates.
On en mangerait tous les jours.
Mon fils aime pas les patates.
C'est qui ce fils?
Est-ce que vous avez des projets, justement, est-ce que Patate Club va faire des petits, ou est-ce que le podcast va faire des petits, puisque tout le monde fait des petits?
Alors nous, ce qu'on espère, c'est que le podcast vous inspire et que vous fassiez vous-même vos propres initiatives et que ça éveille des vocations, que sais-je, des initiatives personnelles. Et de l'autre, dans le cadre du Patate Club et du Sens Créatif, en fait, nous, notre gros truc cette année, c'est déjà la deuxième année, c'est qu'on a créé un bootcamp créatif qui s'appelle La Quête, qu'on a fait avec Kylian Talin, qui est un ami. Il y a déjà plusieurs personnes ici présentes ce soir qui font partie de ce bootcamp. C'est une formation de 2 mois où on accompagne des créateurs et des créatrices. Faites du bruit, hein, les aventuriers! Voilà.
Ah, c'est super!
C'est demain, le tout dernier jour.
C'est quoi un bootcamp?
Un bootcamp? Ah, c'est une sorte de formation en ligne de 2 mois, en fait.
Une formation collective, ouais.
Avec des cours, des exercices et des masterclass. Et moi, comme d'hab, je pose des questions. J'interview des gens. Et ça, c'est vraiment notre gros bébé.
Pendant 2 mois,
non-stop. Je suis éreinté.
C'est un marathon.
J'en peux plus. Mais ça, c'est vraiment un peu le bootcamp, La Quête, c'est vraiment l'incarnation absolue de tout ce qu'on a toujours envisionné avec Sens Créatif, mais de manière hyper intense pendant 2 mois.
Ouais. Et tout ce qu'on allait chercher finalement dans les podcasts, dans les épisodes, on les met vraiment dans ce bootcamp.
C'est une compilation de toutes les infos que vous avez collectées, des expériences, des techniques, des... des bottes secrètes ou tout ça. Enfin, vous les avez concaténées et vous les délivrez comme ça.
C'est ça.
C'est super. Ouais. Et du coup, il y a des bootcamps ce soir.
Faites du bruit, les aventuriers.
Vous voulez dire un mot ?
Quelqu'un veut prendre la parole ?
Parce que c'est super intéressant.
Mehdi, ça
c'est,
te
botte ? Juste, c'est en ligne ou c'est...
C'est en ligne, ouais.
C'est en ligne.
Ouais.
C'est pas,
un grand bootcamp, mais viens, viens.
Non, c'est tout est en distanciel, d'accord. Mais on utilise beaucoup la visio et on crée du contact humain grâce aux outils, en fait, justement.
Ok,
le grand Mehdi.
Alors, Mehdi est toujours le porte-parole.
Bonjour.
Bonjour.
Faut que je parle. Enchanté.
Alors, oui.
Est-ce que je reprends le micro à Mehdi parce que je dois vraiment préciser. Mehdi, c'est vraiment quelqu'un de très très important en fait dans l'univers Sens Créatif. Il est là depuis le début. Il nous accompagne quasiment tout le temps et c'est notre poteau Mehdi quoi. Voilà.
C'est la mascotte en fait.
Ouais, on a même baroudé ensemble. On a fait des interviews et tout.
Et donc ça t'a appris quoi? Enfin, ça t'a apporté. En quelques mots.
La quête, hein, précisément, ou depuis le début avec Sens Créatif?
Non, la quête.
La quête? Oui. Bah, la quête, ce que ça m'a apporté, c'est une introspection. Et après, j'ai envie de dire, chacun va y trouver son trésor, va trouver son mindset, sa manière d'avancer, son flow. Moi, je visualise ça comme une sorte de carte trésor que j'avais retrouvée et que j'avais enfin sur mon île trouvé le trésor que je cherchais tout le temps.
Ah bon?
Je vois, c'est un peu comme ça. C'est des choses que j'avais en moi, que j'avais refoulé ou pas, que je mettais de côté ou pas, ou que je prenais à la légère. Et le fait de travailler dessus, d'échanger avec les autres dans la quête, et d'en parler en mentoring ou juste d'écouter les mentoring, m'ont fait découvrir que oui, j'avais ces trucs-là en moi. C'est juste que j'osais peut-être pas, parce que je pensais que c'était pas forcément puéril, mais peut-être que je pensais que c'était désuet ou pas intéressant. Mmh. Et une des phrases qui me revient, c'est de pas avoir honte de céder à la facilité. Des fois, il faut juste se pencher et récolter ce qu'on a sous nos pieds pour voir ce qu'on peut faire avec. Et voilà, c'est ça. Ouais, pour moi, en tout cas, pour mon expérience, c'est ça le truc. C'est que la quête, c'est 8 semaines, c'est intense, c'est deep.
Donc c'est tous les jours.
C'est tous les jours. c'est tous les jours où on peut mettre le temps qu'on a, parce que tout le monde n'a pas forcément le même temps à allouer à la quête. Il y en a qui travaillent à côté, il y a les vies de famille, etc. Moi, par exemple, j'ai la chance de pouvoir le faire tous les jours parce que je me suis pris le temps pour vraiment profiter à fond de la quête et j'ai pas d'enfant, donc ça aide aussi. Mais tous les jours, on a le lundi généralement, on a la session de cours, donc on a le trio qui vient nous présenter le module de la semaine. Ensuite, à partir de là, ça commence les sessions de mentoring du mardi au jeudi. Et chaque fois, c'est quelqu'un de différent. Donc, généralement, d'accord, le mardi, c'était Laurent. Ensuite, c'était Jérémy. Ensuite, c'est Kylian.
Ah, okay.
Avec chacun sa couleur et son tempo différent. Et le vendredi, c'est la taverne où Jérémy nous présente généralement un invité ou une invitée mystère. Et on échange. C'est un peu comme un mini épisode de Sens Créatif, mais plus orienté vers la quête pour le coup cette fois-ci. Plus dans le sens, regardez, on vous présente quelqu'un qui va vous donner une tonalité différente. Ouais. Et ensuite, le lundi, ça redémarre et ça pendant 8 semaines.
Et demain, c'est l'épisode de clôture et on va souffler et on va être content de que ce soit fini.
Ouais. C'était déjà très émotif dès lundi.
Si ça vous titille, on a fait un épisode consacré à la quête sur le podcast pour débriefer de la première édition. Vous pouvez avoir la petite vignette là-bas pour retrouver cet épisode. Et il y aura une troisième session l'année prochaine. Voilà.
C'est hyper intéressant, bravo, vraiment.
Je voulais juste ajouter Mehdi est podcasteur et son podcast s'appelle Âme d'artiste.
Âme d'artiste,
voilà, si vous voulez écouter Âme d'artiste.
Mais merci beaucoup, merci.
Est-ce qu'on consacre aussi un petit temps pour les questions-réponses pour nos...
Oui, bien sûr.
Donc, si vous voulez poser une question à Grosduc et Boucard, à Yukiko Noritake et Pierre-Emmanuel Lié, ou nous, ou la mia d'ailleurs, ce micro est pour vous.
It's time.
Moi, j'ai une dernière question pour vous.
Encore, non, pas lui, encore. Quelqu'un d'autre.
Non, mais je suis chaud. Vous m'avez contacté, vous m'avez dit que ça serait la dernière.
Ouais, exactement.
Mais genre forever.
Ouais. Chut. Non, vas-y, rentre. Et en fait, dans le...
Oh là, non, pas cette question.
Bah oui, mais non, mais justement, ouais. Enfin.
Non, t'as raison, t'as raison.
C'est bien d'en parler.
Ouais. Ouais. On va faire une petite thérapie tous ensemble.
De dire, en fait, ça représente quoi pour vous? Pourquoi c'est...
C'est que du marketing. C'est que du marketing, Pierre-Emmanuel. Voilà, on voulait vraiment que vous veniez. C'est tout ce qu'on a trouvé sur le monde. Enfin, voilà. un brainstorming de...
Il y a 45 personnes à qui on va manquer. Voilà, c'est tout. Voilà.
Non, non, pas, bah, parce qu'en fait, tous les ans, bah, en fait, le podcast, c'est une économie qui est hyper fragile. En tout cas, si elle est faite uniquement pour ce qu'elle est. Et tous les ans, en fait, on se pose la question de savoir si on continue ou pas. Et là, on s'est posé la question très tôt. Et très tôt, on s'est dit, bah, c'était peut-être la dernière saison, en fait.
En fait, simplement. J'ai pas envie de devenir un de ces groupes comme Deep Purple qui tourne encore 50 ans plus tard et que tu te dis, genre, fallait arrêter quand c'était bien, en fait. Et aussi, comme dit Laurent, voilà, les enjeux économiques qui sont fragiles, le temps que ça nous demande, parce que quand même, sur la durée, ça demande beaucoup d'énergie. Puis on a nos familles, on a notre travail, là. Puis c'est la crise économique aussi. On a eu des sponsors qui après, finalement, nous ont plus suivis. Puis on a conscience que c'est que le podcast, notre podcast fonctionne, mais c'est pas non plus, un hit, à niveau, c'est un rayonnement dans tout le milieu. Mais si on voulait encore être plus lucratif financièrement, donc on a été obligé de chercher d'autres solutions en fait financières pour que l'aventure continue. Et on est super content que l'aventure puisse continuer encore l'année prochaine. Quoi.
Complètement, ouais. Voilà. Voilà. Merci pour cette question, Pierre-Emmanuel.
Quelqu'un d'autre, et peut-être pas une question que pour nous, mais aussi pour nos invités.
Ambre,
vas-y, approche-toi, Ambre. Prends le micro.
Oui. C'est trop bien. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour Yuri Take. Alors je suis désolée si je prononce mal ton prénom.
Yukiko.
Ah pardon. Excuse-moi. J'ai une question. Alors déjà bravo pour ton exposition. C'est vraiment magnifique.
Merci.
C'est splendide. J'ai une question. Tu travailles avec quel type de peinture ?
C'est acrylique, peinture acrylique.
D'accord.
C'est tout.
Du coup tu travailles aussi à l'acrylique pour tes projets en illustration jeunesse ?
Oui, je travaille tout. J'utilise que l'acrylique pour projet perso, projet pro, jeunesse, l'affiche, magazine, tout.
D'accord.
En fait, je peins et je scanne, je numérise et je retouche sur Photoshop.
Ok. Et du coup, tu as fait toute cette série-là en 2 mois ?
Oui, mais en fait... non, 2 mois, c'est peut-être un peu court. Bah, 3 mois...
Bravo.
Merci. Après la partie de grosse partie de masse de peinture, ça va quand même un peu vite parce que j'utilise un pinceau assez épais comme ça. Je passe un coup de pinceau et c'est surtout les détails des plein de personnages. Par exemple, le premier visuel en balle, ça m'a pris pas mal de temps pour dessiner les personnages un par un, mais voilà.
Ouais, c'est vrai que c'est très gestuel, certaines de tes peintures. En fait, on sent vraiment le geste. On voit que ça a été fait en une fois. Et ça apporte vraiment quelque chose, enfin, une dynamique qui est juste
incroyable.
Ouais,
je joue sur ça, ouais. Ouais. Vu que j'ai raconté sur le podcast avec la mienne.
Oui, allez tous écouter La Bonne Aventure, hein. C'est aussi un autre podcast d'illustration.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas parlé du podcast de la série. Voilà.
Parce qu'ils sont tous les trois passés en plus sur le podcast.
Oui,
donc, du coup,
c'est
vous avoir encore
un excellent podcast. S'écoute, vraiment, c'est du miel sur les
oreilles.
C'est
bien ce podcast.
La Bonne Aventure. Oui, franchement, il est bien mené, c'est chaleureux.
Posez
des
bonnes questions.
Il faut faire confiance à la.
Un petit croissant en plus.
Il y a des petits croissants aussi.
Oui.
Et alors, maintenant, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ou pas ? Oui, mais.
Come back.
En plus, t'es le plus grand, on te repère direct.
Bonjour.
Oui, c'est pratique.
C'est bien.
Bonjour, rebonjour du coup. Déjà, je voulais vous remercier tous les deux parce que merci pour ces 5 saisons incroyables. Là, tout à l'heure, j'étais sous le coup de l'émotion, donc voilà, j'ai pas pris le temps. Donc merci. Et justement, j'ai envie de te piquer l'exercice de mentoring que tu nous as fait faire l'autre fois à la lundi. Et du coup, j'ai envie qu'autour de la table, vous vous remerciez et que si vous deviez vous remercier à cet instant T de pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce que ça serait vos remerciements à vous-même, en fait?
Ah ouais.
Voilà.
On est dans le deep, là.
C'est là les lourdes.
Hey, Margot, on se casse.
Margot est en PLS.
C'est quoi ces questions?
Écoute, je vais commencer parce que c'est ma faute, en fait. Moi, j'aimerais vraiment me remercier, justement, pour oser être un perturbateur. Parce que je pense que depuis que je suis petit, on m'a vraiment toujours fait comprendre que j'étais le roi des emmerdeurs. Mon père me le disait, mais je pense que c'était affectueux. Hein. Mais voilà, enfin, il a fallu transformer ce truc-là pour me dire, bah non, en fait, c'est pas c'est pas forcément un défaut, ça peut être quelque chose de très positif, et il suffit que j'en fasse quelque chose de positif. Donc perturber, ça peut aussi amener à débloquer aussi la parole, à s'amuser, à avoir du fun, à aller plus loin. Voilà. Donc je me remercie pour ça. Toi, Jérémy.
Non. Prends ce sens-là. Tu l'ouvres et je termine.
C'est... Ah, c'est juste se remercier soi-même. Le pourquoi en soi, Max, c'est tu peux te remercier pour quelque chose que dont t'es fier de toi.
Allez, Océane.
Prends le mic. Moi, je suis contente d'avoir fait gravure, du coup, de t'avoir rencontré.
Eh ouais.
Yeah.
C'est les aveux. Non, et puis qu'après on ait réussi à monter un peu un atelier assez rapidement, à travailler ensemble, tout ça, c'était assez fluide, donc c'était cool. Enfin ouais. Voilà.
Qu'on ait du fun.
Ouais, qu'on ait du fun dans ce qu'on fait, ouais. Ça c'est chouette. Voilà.
Et là.
Yukiko.
Le remerciement pour moi-même, c'est je pense que je suis un peu déconnectée, du coup, c'est bien de m'enfermer moi-même dans un certain bulle que je fais un peu shut out de bruit de autour. Surtout que vu que je suis japonaise et que je parle pas, parfois je comprends pas trop les détails des Français qui parlent, que j'ai pas forcément besoin d'écouter. Ça c'est bien aussi pour développer un peu mon univers.
Alors c'est une question un peu spéciale, hein. Mais je sais pas, je me remercie peut-être pour certaines initiatives que j'ai prises à des moments et enfin je sais pas si je les reprendrai aujourd'hui en fait.
Je sais ce qu'il faut que tu remercies
pour
toi.
Pour
l'appétit
moi.
Du bonheur.
L'appétit du bonheur, ouais.
Merci Lamia.
Oh, c'est un épisode de Noël un peu tout ça.
Oui. C'est très cheesy mais ouais, c'est bien.
On adore le cheesy.
Ça aussi. Lamia, tu te remercies pour quoi toi?
Non, moi je pose que les questions.
Ah non.
C'est facile.
Pirouette, cacahuète.
Ah moi je remercie vraiment tous les artistes, pour moi vous êtes des dieux et encore mieux que des dieux parce que vous existez vraiment. Voilà, je me remercie pas moi mais je vous remercie vous. Ouais. Et ça me donne presque envie de pleurer.
On peut remercier Lamia s'il vous plaît. Un applaudissement.
Attendez ça un peu. Hein.
Et moi, je pense que je me remercie de pas avoir peur de poser des questions bêtes. Parce que ma mère m'a toujours dit, il n'y a pas de questions bêtes. Et quand j'étais plus jeune, je posais du coup beaucoup de questions en classe. Et mes autres copains qui étaient tellement tout cool, fausse cool, qui m'ont regardé genre, c'est bon. Genre, mais t'as pas compris non plus, toi, en fait. Donc je pense que j'étais un peu chiant. Mais j'ai toujours eu l'appétence des questions. Et je pense que du coup, c'est ce qui me fait avancer, en fait, de poser des questions là où peut-être d'autres, je sais pas. En tout cas, moi, de pas avoir peur de poser des questions. Voilà. Une autre question.
Ou le tarot.
Ou le tarot.
Non, mais ou pas le tarot, hein, parce que c'est quand même un rendez-vous avec le destin, ça fait un peu peur. Hein.
Alors là,
on est sur la bonne aventure quand même.
Non, mais. Ou pas, peut-être la question est plus
en plus. Est-ce qu'il y a une question qui...
En plus, aujourd'hui, on a fait un exercice où on disait qu'on allait être en paix avec notre mort.
C'est vrai. Non, mais arrête là.
Donc, le tarot, ça me fait pas
ça
peur.
Ça fait pas aussi peur que ça, en vrai. Hein. Vous inquiétez pas.
J'ai eu la mort.
T'as eu la mort? Génial. Moi, je veux avoir un truc comme ça.
Bon, ça vous... Ça, tout le monde, ok?
Non, c'est pas tout négatif.
Alors, j'ai une petite question qui n'en serait peut-être pas une. J'aimerais que vous me parliez justement de vos rendez-vous peinture. Alors, j'avais des questions sur déjà quelle technique vous utilisez et comment vous accordez du temps à la peinture. Est-ce que vous avez un rythme particulier? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, s'il vous plaît?
Wow, c'est une question large, hein, Ambre, là.
On prend le podcast.
Ouais, c'est ça.
C'est un sujet.
Tu veux dire la pratique, quoi, en gros, ouais, le craft. Moi, c'est quand j'ai envie, voilà. C'est aussi simple que ça.
Je pense que la question, c'était pour Yukiko.
C'est pour Yukiko?
Oui, et pour Emmanuel.
Alors, je retire ma réponse.
Mais non!
C'est trop tard, Ambre.
Non, mais c'était bien. Hein.
Bah, je l'ai donné.
C'était quoi la question? Quel est
rendez-vous
peinture? Rendez-vous peinture. Je peins tous les jours. Je peins tous les jours parce
mais
que.
Mentalement,
ah oui. En ce moment, je parle pas de réalité. En ce moment, je peins tous les jours parce que j'ai les délais à respecter et que j'ai, enfin, heureusement que j'ai des projets à faire, à finir. Donc, je peins. Et sinon, pendant les vacances, je peins un peu dans ma tête.
Ce qu'a expliqué Yukiko, c'est super intéressant, c'est que quand t'as pas le temps de dessiner et de prendre le pinceau, tu peins dans ta tête, tu crées des compositions mentales. Et ouais. Le jour où t'as le temps, tu les dessines.
J'essaye.
C'est super canon, quoi. Et du coup, t'as entraîné ta mémoire à te rappeler des petits triggers, ce qu'on appelle les triggers en anglais, tu sais, quand tu déclenches quelque chose, ouais. Et bang, ça revient.
Bah, par exemple, quand je rencontre des paysages magnifiques et tout pendant le voyage, je me transmets tout de suite, ah, cette partie-là, le ciel, ça peut être ce couleur, cette partie de lumière, ça peut être tracé par ce type de pinceau, enfin, des telles couleurs.
Il n'y a pas de croquis, tout est dans la tête.
Oh. Je fais un peu dans ma tête et quand j'ai le temps, enfin, j'essaye de reproduire ce que j'avais.
Bon, on finit avec la bonne aventure. Ah, pardon.
Non, mais en ce qui concerne la peinture, moi, c'est une pratique un peu parallèle. Donc, je mets un peu tout ce qui est manuel dans le même sac. Mais en gros, c'est dès que j'ai l'espace et le temps. C'est-à-dire, en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, je fais surtout du numérique et des choses comme ça. Mais sinon, c'est le plus possible. Et je pense que ça tient surtout à avoir un endroit dédié à ça. Ça, c'est vachement important. Un espèce de sanctuaire où tu puisses te retrouver, toi, seul, et travailler manuellement. Alors, si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais. J'adorerais. Mais malheureusement, en fait, on peut pas. Donc, le plus possible, quoi.
Merci, Pierre-Emmanuel. Merci pour la question. Lamia, vas-y. Alors, let's finish.
Oui, alors voilà, on va juste terminer pour faire un petit clin d'œil, parce que c'est un peu le protocole quand on fait La Bonne Aventure, le podcast La Bonne Aventure. Vous allez sortir une carte de tarot, le tarot de Marseille, et voilà, j'espère qu'elle sera pas mauvaise. Il y en a quand même qui sont pas terribles.
Ça m'embêterait d'en avoir une bonne, moi.
Ouais,
ça,
oui.
Voilà, alors l'un après l'autre, on va essayer d'aller assez vite, parce que j'imagine tout le monde a un peu faim.
Ouais.
Mais alors, avec la main gauche, Jérémy, tu les bras dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je parle vite, mais tu vois, genre comme ça.
Comme ça, ok.
Ouais.
Ah, voilà, c'est bien, ça. C'est
ouais,
bizarre,
vas-y,
voilà.
Mets ton fluide.
Ouais, je mets mon fluide.
C'est bien. Voilà, voilà, tu brasses, hop. Et là, tout simplement, hop, tu coupes avec la main gauche, la main du cœur, hop, là, et là, je suis un peu handicapée parce que j'ai un pouce qui ne fonctionne pas bien. Tu vas sortir une carte, tu en prends celle que tu veux.
Ok. Celle-là.
Ah, voilà.
Alors,
le bazar, c'est le bazar.
Oh là là,
c'est génial.
C'est la maison Dieu.
Okay.
Déconstruction de l'édifice établi et en fait tout part en cacahuète et tout se déconstruit mais pour mieux se reconstruire derrière. Les personnages ils sont
incroyable.
Joyeux.
Incroyable.
La maison Dieu. Oui, oui, oui.
Ouais. C'est totalement
c'est le,
du sens.
C'est le voyage. C'est le voyage de Jérémy. La déconstruction.
Oui. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Vrai.
Oui, oui.
Oh,
c'est un autre podcast.
Ça donne des frissons.
On
c'est super ouf.
Oui, c'est vrai. Bon, ouais. J'espère qu'on aura une bonne pioche pour toi aussi. Donc c'est positif, hein. C'est positif.
Cool.
Ouais. Pareil, t'as vu Laurent? Tu prends la main gauche, tu brasses dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà.
Catastrophe.
Vas-y, vas-y. Parce que comme il faut que tu mettes bien.
C'est une expérience, hein, ce soir, quand même, hein.
Après, on va faire les esprits.
Ok, non. En fait, je sais pas, on n'a pas le temps, là, quand même, pour les esprits.
Et hop, comme ça, tu coupes avec la main gauche.
Si tu m'as affirmé.
Toujours.
Hop. Et là, un peu maladroitement, voilà. Là, t'en prends une.
Oh, les motos.
J'ai plus le droit d'y toucher, là.
Non, enfin, tu peux, si, moi seulement, j'ai le droit d'y toucher. Voilà.
J'en avais repéré
si
une
peux,
tout à l'heure.
Les, tu peux les... Ah oui.
Eh ben, je vais prendre celle-là, qui est un tout petit peu...
Ah, le chariot. Alors, le chariot, c'est un jeune homme qui dirige deux chevaux, et ça, c'est le succès, mais après adversité. Voilà, c'est, tout est dit. Ah. Donc, il y a quelque chose, un projet qui va se réaliser, mais tu vas un peu en baver quand même pour y arriver.
C'est l'histoire de ma vie. Hein.
Mais il y a succès.
Bah ouais, toujours.
Mais succès, voilà, mérité.
Parce que je lâche rien. Merci Lamia.
Bah, avec plaisir, vous me tenez au courant, j'assure le service après-vente.
Génial, mmh. Super, on reviendra.
Merci à toutes et à tous. Merci Grenuc et Boucard, merci Nicolas Noé Tagué, merci Pierre-Emmanuel, merci Lamia,
merci Cyril,
merci
toute l'équipe de la SLO.
Merci à chacun et chacune d'avoir été avec nous. C'était formidable. Ouais.
Et voilà, la saison 5, c'est terminé. Cette année encore, Sens Créatif a été une sacrée aventure. On espère que ça vous a plu et que vous en avez profité. Merci d'être là, de nous écouter, de nous soutenir. Sur ce, Laurent et moi, on file prendre quelques vacances bien méritées. On vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier 2024 pour la reprise de la saison 6. Ciao, ciao.